Bonjour, bienvenue sur Gameblog.fr et bonne fête à tous.
Bonne année
2010 à tous. Bienvenue sur Gameblog pour le grand retour des podcasts avec ce podcast 125 que nous allons dédier aux perspectives de cette belle, heureuse, chaleureuse, gameuse année 2010. En tout cas, on vous le souhaite et on nous le souhaite aussi quelque part. Bien évidemment, pour vous en parler, on vous l'avait promis, fin 2009, et bien ils le sont de retour. Il s'agit de Guillaume Delalande de
LCI. Oui,
ça va bien,
là.
Guillaume ?
Ça va bien, très bon,
bon réveillon. Ça va bien,
très bien, bah, un peu mal à la tête, j'avouerai, mais bon.
Je peux comprendre.
On fait ce qu'on peut.
Et on a aussi Ragal qui est avec nous, ancien rédacteur en chef de Gamekult.
Bonjour.
Et qui va lancer là incessamment sous peu son site internet
senscritique.com. Suite maintenant.
C'est vrai.
Dans l'heure, la clique, paf.
Et bah c'est beau. Bon messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ragal aussi, bon réveillon, ça s'est bien passé.
Tout va bien. Impeccable. La
bon.
Vie est belle.
Et bien pour nous rejoindre autour de cette table rouge laquée qui n'a pas changé elle dans l'histoire de Gameblog, et bien nous sommes entourés de Traz bien sûr. Ça va
oui,
Traz?
Oui bonjour, ça va très bien.
Oui bonjour, ça va.
Julo, ça va Julo?
Bonjour, très bien, ouais, très bien.
Et de Raon.
Hello.
Ça va Raon?
Oui oui, ça va et toi?
Et bah ça va super, on va
et
passer une belle année.
Bon année.
Bon vous l'avez vu, on est en forme hein, mais c'est une belle année qui commence et on est heureux de la passer en votre compagnie. Alors on va commencer cette perspective 2010 avec, et bah est-ce que en 2010 ce serait pas Vlatipa l'arrivée de nouvelles consoles, en tout cas peut-être pas physiquement, mais en tout cas les premiers bruissements, les premiers échos, les premières informations qui vont jaillir probablement aux alentours du mois de juin lors d'un fameux E3 2010 qui s'annonce dantesque. On le sait, la Wii a besoin d'un nouveau souffle. Clairement, les ventes sont stratosphériques hein, par rapport à ses adversaires, mais c'est vrai qu'elle baisse un petit peu globalement. On sait aussi que toutes les rumeurs entourant la Wii HD, on peut vous le dire aujourd'hui, sont bel et bien fondées, pas sur le nom Wii HD, mais sur une autre machine qui existerait déjà. Nintendo, bien évidemment, est en train de travailler dessus.
Même s'ils disent le contraire, évidemment.
Évidemment, et que les choses pourraient arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Raon, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ce qu'on imagine et ce qu'on sait un peu, et ce qu'on peut dire parmi les choses qu'on sait et ce qu'on peut pas dire parmi les choses qu'on sait?
Bah ce qu'on peut pas dire, bah on peut pas le dire, donc voilà. On le dira pas, mais il y a effectivement eu déjà depuis assez longtemps, de longs mois, pendant tout au long de l'année 2009, pas mal de rumeurs sur une nouvelle PSP. Bon, il y a eu la PSP Go qui est sortie.
On va parler des portables après, parce que là aussi, on a des révélations à vous
voilà,
faire.
Et puis sur effectivement 2, la Wii, parce que tout le monde s'interroge par rapport au reste, mm-hmm. par rapport aussi à la désaffection de certains développeurs dont on parlait dans le podcast de fin d'année 2009. Vis-à-vis des plateformes Nintendo, parce qu'ils s'y retrouvent pas tout simplement ouais. économiquement, ils vendent pas de jeux dessus, donc ils se recentrent peut-être un petit peu sur les consoles HD. On sait que Nintendo a toujours plein de projets dans ses cartons et qu'ils attendent en général le bon moment pour le lancer et surtout pour en parler le plus proche possible de la sortie pour eux. Mm-hmm. Donc effectivement, on va surveiller cette E3 en juin prochain, c'est le 15 au 17 juin, c'est ça, mm-hmm. 2010. Il y aurait peut-être effectivement des choses à dévoiler là-bas. En tous les cas, on sait qu'il y a des développeurs qui travaillent sur des choses. Donc on ne sait pas si ça sortira ou pas.
On sait aussi que tu as entendu parler de choses concernant la Wii HD, mais on peut vous le dire, ça ne s'appellera pas la Wii HD déjà. Hein.
Oui.
C'est une première information.
En fait, moi j'en parle depuis longtemps, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on se fout un peu de ma gueule. Mais mais la Wii HD, là, moi, d'après mes infos, là, elle serait, contrairement, on sait hein, que la successeur de la PS3, dès qu'une console est lancée, on sait que on travaille sur la suite. Mm-hmm. Mais là, apparemment, le successeur de la Wii serait déjà en fait finalisé, mm-hmm. fini, déjà avec des jeux de développeurs, enfin des jeux Nintendo, déjà quasi finalisés. Mais c'est juste qu'ils ont retardé le lancement qui était prévu initialement parce que la Wii se vend encore par boîte entière.
En information qu'on peut vous donner, là, début 2010, il est vrai aussi que cette Wii HD va, enfin, comme on l'appelle, on va dire, son autre code, ça va pas repartir dans une course à la puissance, à la grande technologie, mais ce serait l'équivalent de Xbox 360 ou de PlayStation 3 actuel, c'est-à-dire quand même...
un gros saut de technologie.
C'est
hein.
ça, pour Nintendo. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut pas. Il va pas falloir imaginer des trucs 10 fois plus impressionnants que ce qu'on voit en tout cas actuellement. C'est pas la logique de Nintendo qui devrait rester assez proche des contrôleurs qu'on connaît aujourd'hui. Il risque peut-être pas, mais là on ne sait pas tout non plus, d'avoir de bouleversement, de révolution à ce niveau-là.
Et il serait peut-être temps qu'il vienne sur Internet. Hein. Maintenant, on peut supposer, supputer, etc. Mais
il semblerait qu'en tous les cas, ça soit un projet qui soit très axé justement sur l'aspect communautaire et Internet. Mmh. Ouais.
ce serait probablement rattraper les carences du passé à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette Wii 2, Wii HD, Wii ce que vous voulez, va probablement aller un peu plus du côté communautaire. C'est une grosse hypothèse.
Non, c'est que... Facebook Nintendo, c'est ça, c'est
ah, bah, vous verrez, mais c'est vrai que normalement, on devrait en apprendre plus vraiment à cette E3 2010, hein, qui sera passionnant à plus d'un titre, parce que ça, il est fort probable qu'il n'y ait pas que Nintendo qui fasse des annonces.
Alors,
est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de la guerre des portables ? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu hein, dans le podcast de fin d'année, la DS fonctionne très bien, la PSP marche plutôt bien, mais c'est vrai qu'elle est en retrait, clairement,
comparativement, oui, mais c'est pas pour ça qu'elle marche pas du tout. Quoi.
Mais néanmoins, ses ventes ont été divisées par deux entre 2008 et 2009. Et du coup,
et puis
Sony...
c'est une console qui commence à avoir un petit peu d'âge quand même, aussi, mine de rien. Enfin, c'est pas qu'elle a fait son temps, mais elle a déjà pas mal de temps derrière elle. Et beaucoup de personnes attendent une PSP, une vraie PSP 2, une PSP boostée, peut-être avec deux sticks analogiques, peut-être encore plus proche en fait.
Avec du multi-touch. Ça, c'est IGN qui en parlait en début d'année 2009 déjà. Et depuis, ils en ont plus jamais reparlé.
En tout cas,
j'ai pas fait attention, mais il me semble que non. Donc à mon avis, ils étaient déjà au courant de pas mal de choses.
Il y a beaucoup de bruit de couloir
là. Et si effectivement il y a des fonctions multitouch, ça peut être sympa. Mais bon, on sait bien que le multitouch chez Apple, c'est chasse gardée. Donc
c'est
faut payer maintenant.
Faire n'importe quoi.
Il faut trouver un autre multitouch.
Il faut réinventer la roue, quoi.
En tout cas, on peut vous l'affirmer aujourd'hui. La PSP2 est vraiment dans les tuyaux et elle est beaucoup plus avancée que certaines personnes semblent l'imaginer.
Tout à fait.
Et pour l'an prochain.
Et c'est vrai que probablement cette E3 2010 risque d'être quand même assez riche, parce qu'on sait en même temps que du côté de Nintendo, ils avancent aussi sur le successeur de la DS, et que dans ces cartons, on rappelle hein, quand même quelques années, on repart quelques années en arrière, la DS n'était pas la GBA2. C'était une machine de substitution et finalement presque de transition que Monsieur Iwata avait dit, si elle plaît à 10% des gens qu'on veut toucher, on sera déjà très heureux. Bon, on connaît l'histoire derrière, hein. 120 millions d'exemplaires vendus plus tard, bien sûr, la GBA2, on l'a foutue dans un tiroir. Mais dans ce tiroir, elle existe toujours. Et pourquoi on ne s'imaginerait pas, vu le nombre de nouveaux exemplaires, de remoutures, de DS qui sont sortis, passer à autre chose.
Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette GBA2 ?
Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça, c'est un petit peu le grand suspense, en revanche. Mais alors Ragal,
je suis d'accord avec Guillaume. Moi, je verrais pas d'intérêt à ce qu'ils en sortent une. Si c'est juste de la puissance graphique comme de la PSP, s'il y a pas de tactile, je vois pas quel serait l'intérêt. Justement, on en parlait en 2009, mais on disait qu'effectivement il y avait peut-être un risque avec la DSi XL, etc., d'avoir une multiplication des supports. Je vois pas moi qu'elle serait ils le feront probablement et peut-être que ça marchera, mais moi je vois pas l'intérêt aujourd'hui en fait de sortir une console qui apporterait je sais pas quoi de plus à part de la puissance graphique peut-être.
Non, développer à fond le DSiWare, ce serait vraiment une bonne idée, quoi.
Ouais, bien, déjà
super intéressant là-dessus,
ça,
parce que là ce serait vraiment une porte de sortie, quoi.
Peut-être c'est simplement une machine encore plus jumelée avec le successeur de la Wii, peut-être aussi plus simplement, et effectivement les services en ligne, pourquoi pas une espèce de DS peut-être dématérialisée aussi pour le coup, profiter du fait que Sony ait mis son pied en premier sur la portable dématérialisée.
Je sais pas si le public de
Guillaume.
Nintendo est le même que Sony est prêt à passer au tout dématérialisé. Autant Sony c'est plus éduqués tech, qui ont plus de moyens. Je vois pas les gamins plus jeunes qui sont la cible de Nintendo quand même.
Mais qui sont les premiers à foncer vers le dématérialisé aussi. Hein, on le sait. Hein, pour eux, le CD n'existe pas.
Il faut la carte bleue de maman quand même.
C'est vrai.
En tout cas, au Japon, il y aura peut-être au Japon, en tout cas, des fonctions téléphoniques à aller chercher sur une console portable. Pourquoi pas.
Aussi, c'est vrai.
Ça, c'est peut-être un créneau qui peut creuser.
D'autant plus qu'ils ont un réseau mobile encore plus rapide. Ils sont déjà passés au successeur de la 3G là-bas. Donc, effectivement, oui, à surveiller.
Et est-ce que vous pensez qu'il est complètement aberrant d'imaginer qu'un troisième larron pourrait s'immiscer dans cette course, à savoir Microsoft ? C'est vrai que lorsqu'on l'a reçu, Guillaume, sur LCI Game
apparemment,
Club...
Apparemment, ils disent non. Hein, c'est...
François Ruault était catégorique.
deux mois avant la baisse de prix de la Wii, ouais,
c'était
non aussi. Hein, donc,
voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu déjà, par le passé, des images. Je me rappelle de certains devices numériques, etc., de la part de Microsoft, où on voyait des images de ce qui pourrait ressembler à une sorte de halo qui tournait. On a vu les essais avec le Zune. Alors,
voilà,
certes, pas très.
Mais enfin, un troisième Zune, on sait pas.
Faut voir comment est-ce que le Zune HD pourrait fonctionner aussi en Europe, quand et comment ils le lanceraient. Mais c'est certain que
c'est pas prévu pour tout de suite apparemment.
A priori non, mais c'est aussi certain qu'il l'étudie, il regarde.
Et puis surtout après, si on parle chiffres, et on sait que Microsoft aime bien les gros chiffres, quand on voit le marché des consoles portables, qui si on cumule les ventes de la DS et de la PSP représente quand même un marché de plus de 170 millions de devices, et si on y intègre l'iPhone, alors là on pète encore les scores, il est bien supérieur au marché des consoles de salon.
Clairement.
Ne serait-ce que prendre 20% de part de marché dans ce genre de domaine, c'est déjà l'assurance de vendre des dizaines et des dizaines de millions de machines et d'avoir donc des royalties de jeux.
Si les jeux fonctionnent, effectivement. Après, il faut voir aussi si c'est une question de... Si c'est pour perdre de l'argent sur chacune de ces machines, ça va être un problème aussi, parce qu'au bout d'un moment, même Microsoft, dont on dit qu'ils ont des fonds propres qui sont illimités, c'est pas le cas non plus, quoi. Ils font pas n'importe quoi pour autant.
Ceci dit, je suis persuadé, et je pense que vous l'êtes tous ici, qu'ils ont déjà fait des prototypes de portables. C'est évident, c'est ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, quoi. Voilà,
mais moi, ta réaction, Ragal.
Ouais, moi je me rappelle quand même leur arrivée sur la console de salon, avec la Xbox. La Xbox, c'est un chiffre que j'ai jamais rappelé, mais je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même 5 milliards ou 4 milliards. Enfin, c'est énorme.
Enfin, c'est beaucoup de milliards.
C'est beaucoup de milliards. Je crois que c'est 4 milliards en 4 ans, hein, qu'ils ont perdu sur la Xbox.
Mais ils le savaient, ça. Ils le savaient aussi.
4 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Donc, ils sont prêts.
Ils sont prêts à mettre de l'argent. Ils ont le chéquier grand ouvert. Il n'y a pas de souci.
La Xbox 1 était un gouffre financier lamentable. Enfin, énorme, colossal pour Microsoft.
Puis on sait que tu fais des comptes, donc t'aimes bien les comptes.
Exactement.
Vite, hein,
est-ce qu'ils sont prêts à le faire encore sur... Mais c'est vrai que Microsoft, ils sont prêts à dépenser énormément, et quand même, il faut leur reconnaître une qualité, c'est qu'ils reconnaissent leurs erreurs.
C'est vrai.
Un peu tardivement, mais ils reconnaissent, hein, notamment, on se rappelle la première manette
de la Xbox. Vas-y, la manette que tu peux pas prendre dans les mains, merci.
Voilà, la manette Tank. Donc, moi, ça me paraît un peu aberrant qu'ils sortent une console, d'un point de vue purement... comment on peut lutter aujourd'hui face à la DS et la PSP. Ceci dit, s'ils sont prêts encore à perdre 3 ou 4 milliards en 2010-2011 pour décoller en 2012, pourquoi pas ?
Julo.
Le truc, c'est qu'ils sont très très occupés à imposer la Xbox déjà, et pas seulement au Japon. Hein. Ils veulent vraiment affiner leur stratégie et l'imposer dans les têtes, en vendre plus, etc. Ils sont très concentrés là-dessus, et tu disais, ils veulent pas reproduire des erreurs, etc. Pour eux, à mon avis, c'est très très important d'abord d'imposer la Xbox, et ça viendra, à mon avis, tout naturellement ensuite une console portable, parce qu'on a bien vu que le marché des portables était celui qui était porteur aujourd'hui, et ils l'ignorent pas comme personne, quoi.
Bien sûr. Raon, tu veux réagir?
Ouais, pour appuyer ce que Julo dit aussi, ils auront en tous les cas, a priori cette année, une concurrence d'autant plus féroce aussi de la part de la PS3, parce qu'ils ont eu leurs avances jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu des exclus raisonnables, mais la PS3 commence à se réveiller aussi, y compris dynamiquement par rapport à ses ventes un peu partout dans le monde, même si elle est encore très en retrait, et puis au niveau du catalogue.
Il faut pas oublier qu'ils doivent lancer Natal aussi.
Justement,
on va avoir fort à faire là-dessus.
Gros lancement.
Ça va
les occuper un petit peu.
Ça va être l'un des très gros point bien sûr de ce podcast, on va en parler dans quelques instants, mais juste parce que tu l'évoquais très rapidement, Raon, tu parlais d'exclusivité, sachez que dans ce podcast, bien sûr, en fin de podcast, vers le milieu, on va commencer à parler de tous les gros jeux.
Oui, c'est regardez sur votre
milieu
iPhone,
fin.
Voilà,
sur votre
le
iPhone, milieu
au milieu,
fin,
hein.
Ou la fin ou le milieu, non c'est dans, allez, c'est dans à peu près, allez, un quart d'heure, on va parler vraiment de tous ces gros jeux qui vont sortir en exclusivité, à la fois sur PS3, sur Xbox 360, sur Wii, sur PSP, sur DS, sur PC et les jeux multi. Et vous allez vous rendre compte un petit peu de la puissance cosmique de cette année 2010.
Non, il a bu, excusez-le.
Quand on aime le jeu vidéo, franchement, il sait s'en prendre plein la gueule. Voilà, mais avant cela, et bien effectivement, comme le disait à juste titre Julo, on va parler de ce qui va nous intéresser énormément, forcément, parce que c'est stratégiquement très important, c'est ludiquement peut-être un tournant, un virage, c'est est-ce qu'en 2010, on va jouer sans manette ? Ou en tout cas, est-ce que les constructeurs vont faire en sorte de nous essayer de faire jouer sans manette avec l'arrivée conjointe d'un côté de Natal sur Xbox 360 ? On est sûr que ça arrive en 2010, c'est sûr. Et
printemps,
aussi,
a priori, c'est ça ?
Au printemps, normalement. Printemps, non, plutôt hiver.
Novembre.
Ils ont plutôt dit hiver.
Novembre 2010.
Pour Natal.
Pour Natal.
C'est novembre.
C'est plutôt novembre, voilà.
Autant pour WAM.
Et en revanche, du côté de Sony et donc de sa PlayStation 3, il s'agit du motion controller, celui qu'on appelle l'Arc, ou celui qu'on appelle Gem, ou Sphere. Pour l'instant, le nom n'est pas encore arrêté au moment où nous enregistrons ce podcast. J'ai du mal avec ce podcast.
Essaye Xbox 360.
Ça marche bien.
World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Oh putain, si je peux sortir ça, c'est que c'est bon. En gros, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? forcément ça va être aussi l'attraction de l'E3 2010. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, franchement?
Rien.
Moi j'attends de voir autre chose. J'attends de voir autre chose que la démo qu'on nous a montré à l'E3, qui en tant que démo, oui, c'est bien, ça rend bien, mais c'est pas du jeu, c'est une démo technique. Voilà, ça,
là tu parles
bien.
Pour Natal. Ok.
Voilà, on conduit la voiture 2 minutes dans le vide avec un volant, enfin sans volant justement. Ça fonctionne, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait comme jeu? Parce que on va pas jouer pendant 3 heures sans volant dans le vide, quoi.
Est-ce que c'est justement, Rayal, toi c'est pareil, est-ce que ça te gêne le fait de ne rien avoir dans les mains?
Comme un micro.
Parce que t'aimes peut-être bien, je sais pas, oui et non.
J'ai envie de te dire. En fait, moi ce qui me gêne plus, c'est déjà comment ça va fonctionner. Parce que des retours que j'ai eu des personnes qui sont allées même très récemment à Seattle, enfin en tout cas sur le campus Microsoft pour le voir, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que ça marche bien dans des conditions idéales. Je sais pas si vous avez joué à iPad sur PS3.
Oui.
Il faut qu'il y ait de la lumière, mais pas trop.
Mais pas trop.
Autant la manette, l'espèce de boule sphère PS3, c'est simple à fonctionner. Il y a un gros truc, c'est reconnu par la console. C'est un peu comme la Wii, c'est très simple. Autant le Project Natal, donc, qui prend tout notre corps comme manette, il faut une condition de luminosité assez particulière. Mmh. C'est-à-dire que même pour avoir essayé iPad, hein, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il fait un peu nuit, on est en hiver. Mmh. Ah bah tiens, il faut mettre la lumière, mais pas trop. Donc ça, pour moi, c'est la grosse question.
Et ça rejoint un peu les échos que nous, on a eu de développeurs qui disent qu'a priori, c'est pas encore ça sur les kits actuels de développement, mais ils devraient en recevoir des nouveaux.
Ouais,
hein, mais
ouais, donc c'est
contrasté pour l'instant.
Ça, c'est assez compliqué. Et pour moi, c'est le plus gros problème. C'est-à-dire que si on peut pas jouer à la console quand on le souhaite, avec les conditions actuelles qu'on a quand on joue, c'est un gros problème. Avant, effectivement, d'avoir les mains en l'air pendant une heure, ce qui pose un autre problème. Hein. Après, ça peut donner. En ce moment, j'ai joué à Ruse, à la bêta de Ruse, et c'est assez intéressant. Notamment, ça m'a grave donné envie d'avoir. Bon, c'est pas un jeu hyper complexe, c'est un jeu de stratégie en temps réel.
On rappelle, voilà. Ouais.
Voilà.
J'ai envie d'avoir une table.
Et qui se joue normalement avec la table tactile, enfin qui se joue, qui est prévu pour que la table tactile de Microsoft qui soit hyper intéressante. Des jeux comme ça, des jeux de stratégie en temps réel ou d'autres types de jeux, là, ça peut être très intéressant. Et puisque j'ai vu avec ma souris qu'il y avait quand même des limites et que ça pouvait être intéressant.
Il faut arrêter de croire qu'avec l'arrivée de Natal, on va passer du jour au lendemain ou sans manette, quoi. Enfin, oui. Ça va être une association des deux. Enfin,
C'est ça.
Ça me paraît, évident qu'on va pas pouvoir toujours. Enfin, si, on va pouvoir faire un Wii Fit sans manette, sans rien. Là, oui, par contre, on va pouvoir bien se voir.
Mais est-ce que c'est pas justement ça la force de Natal, c'est pouvoir
combiner les deux, bien sûr. Mais surtout de compenser les défauts des débuts de programmation de Natal qui forcément aura des bugs de reconnaissance, aura des bugs de luminosité. De faire plus des trucs anecdotiques, je tourne la tête. Bon, il arrivera à reconnaître que je tourne la tête même s'il y a moins de luminosité. Enfin, j'imagine, je sais pas.
C'est plus simple de concentrer toutes les ressources de Natal sur un visage et effectivement une
reconnaissance
tête.
Globale du.
C'est un peu plus d'une quarantaine de points de reconnaissance, mais a priori, j'imagine que. Enfin, en tous les cas, s'ils ont bien conçu leur truc, tu peux déterminer où se situent leurs points sur le squelette. Donc. C'est effectivement plus simple a priori de se focaliser sur une partie du corps plutôt que de tout gérer.
Traz.
Ouais, moi je voulais juste ajouter que Natal c'est un petit peu comme le tout dématérialisé, hein, comme la PSP Go, il faut bien se lancer un jour. Mm-hmm. Voilà, Natal, ça fait partie des trucs à défricher et puis voir jusqu'où ça peut aller. C'est les balbutiements, donc forcément il y aura des bugs, il y aura des trucs qui iront pas. Mais voilà, c'est le début d'une nouvelle façon de jouer, c'est pas plus mal, quoi.
Mais est-ce que vous pensez pas aussi que si justement ça ne marche pas parfaitement, la promesse de Microsoft, celle qu'on a vue, celle qui nous a fait ouvrir les yeux et écarquiller, tombe quand même, soit anéantie et finalement fasse vraiment des dégâts pour la Xbox et Microsoft?
Moi je reprendrai l'exemple de la Wii, hein. Par rapport à l'idée qu'on s'en faisait. Exactement. Quand elle est revenue au départ,
on a vécu les limites, hein.
Oui,
et pourtant ça l'a pas empêché de fonctionner.
Pour les gamers. Mais à la fois ça marche très bien. C'est juste que les gamers s'attendaient à bouger peut-être plus les bras, à avoir la Wii Motion plus maintenant. Mais pour mes parents par exemple, tu vois, qui sont pas gamers, le simple fait de pouvoir bouger, ne plus avoir de manette,
mais
c'était déjà génial pour
peut-être
eux.
Que tes parents auront la même sensation sur Natal et ne verront pas certains problèmes que nous on verra plus facilement.
Ouais, mais si c'est des bugs de reconnaissance, c'est plus compliqué quand même.
Ouais, mais bon,
attention, c'est pas une nouvelle console, hein, c'est juste une caméra, c'est un truc en plus avec la Xbox, donc voilà. On peut l'acheter ou pas, quoi. Donc,
en l'occurrence, a priori, ce sera dans toutes les boîtes.
Et bah justement, c'est là. Allez, on est début 2010, on est dans les perspectives 2010, on est un petit peu, on peut se le permettre, c'est le tout début, un petit peu dans la boule de cristal. Est-ce que vous pensez, parce que ça a été, il y a des rumeurs hein, qui en parlent, ce genre de choses, que Microsoft va, à l'image de ce qu'a fait Sony avec la PS3 Slim, pour marquer le coup, le fait qu'ils vont mettre en bundle Natal désormais avec toutes les Xbox, peut-être redesigner leur Xbox et qu'on arrivera avec une Xbox Slim pour vraiment marquer les esprits, quasiment comme si c'était une nouvelle machine. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Ah bah c'est possible,
ça fait sens, tout à fait possible.
Ça fait du sens en tout cas. Puis je pense pas qu'ils puissent la placer au-dessus de 300 euros non plus.
Il ouais, y a autre chose aussi, c'est que de réduire 200, la taille pardon. D'une console.
C'est des même, coûts de fabrication, voilà, au niveau hardware, stockage.
C'est
moins.
Des trucs qui chauffent moins, donc moins de radiateurs, donc peut-être une alimentation moins grosse aussi, moins de consommation électrique, enfin tout un tas d'autres avantages qu'on oubliait facilement, mais qui sont importants au niveau industriel.
Et même pour les revendeurs, hein, on l'a vu avec la PS3, ça fait beaucoup de revendeurs étaient heureux de pouvoir en placer sur les linéaires 4 boîtes plutôt que 2. C'est des détails tout cons, hein, mais par exemple, quand on le transfère toutes les boîtes, bah, c'est au lieu d'avoir un avion qui en prend 10 000, et bah, c'est un avion qui en prend 20 000. Et donc c'est moins de kérosène, c'est moins de dépenses, etc. C'est tout
mieux
bête.
Pour
hein,
la
mais,
planète.
Aussi, mais pour les finances de ces constructeurs. Donc peut-être, en tout cas ici, visiblement, tout le monde est...
Ça étonnerait personne, je pense.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, on aura tous envie de l'essayer, c'est sûr. Mm-hmm. Et ça va permettre à plein de gens, effectivement, soit de venir à la Xbox, parce qu'ils voilà, ne connaissaient pas, donc par le biais de ce nouvel instrument de torture, soit aux gamers de pouvoir acheter la caméra seule, qui ne devrait pas être super chère d'ailleurs.
Faut voir avec quel jeu. Hein.
On sait, mais.
Mais on sait déjà qu'un Fable 3, par exemple, a priori aura des fonctionnalités liées à Natal. Donc, si effectivement il y a ça, des licences qui sont communément très très courues chez les gamers.
Mais il faut voir si c'est pas du gadget. Ça peut être très bien Fable 3, et puis à l'intérieur il y a juste un truc pour skinner ton visage, et puis on en parle plus quoi.
Peut-être. C'est ça le problème, Julo. C'est que éternellement ça restera des accessoires. Là, oui, elle s'est lancée avec ses manettes, et là c'est. Alors déjà, première chose, moi je trouve qu'il y a quand même une réponse à la Wiimote, et il y a un côté un peu suiviste dans l'histoire, et donc à moins qu'il fasse évidemment un deuxième lancement, etc. Mais même dans ce cas-là, même avec un deuxième lancement, une console redesignée, le Natal dans les boîtes, etc., t'auras toujours un parc installé de je sais plus combien de millions, 28, 35 millions de Xbox dans la nature. Et ça sera pareil pour...
Les chiffres arrivent, attention, les chiffres arrivent, ils sont là.
Arrivent. Donc actuellement, il y a 34 millions de Xbox 360 dans le monde.
Avant les fêtes de Noël, ouais.
Voilà,
ouais.
C'était des chiffres avant les fêtes de Noël, voilà. Il y en aura un peu plus, évidemment, d'ici le lancement de Natal. Ça restera juste un accessoire, quoi. Et du côté de la PS3, c'est à la limite encore pire, même, je crois, parce qu'il risque pas de
parce que là, pour l'instant, on s'est concentré vraiment sur Natal, mais qu'est-ce
donc,
que vous...
Moi, j'ai peur de ça et je crois pas, en fait, au potentiel... En tout cas, la révolution ludique qu'on nous annonce, enfin, si tu veux, c'est vraiment un argument marketing avant tout. Je pense.
De toute façon, Nintendo a exactement le même problème avec le Wii Motion Plus. Hein. C'est exactement la même chose. Il n'est pas sorti avec la console. Ils sont obligés de le donner avec les jeux pour qu'ils puissent l'installer dans tout le parc. Et là, c'est un parc deux fois plus grand. Donc forcément, il y a encore plus de problèmes.
Traz n'avait pas l'air d'accord avec ce que tu disais, Julo.
Pas trop, parce que si vraiment Microsoft avait voulu suivre Nintendo tout de suite dans la foulée, il l'aurait fait franchement, mais un an après. Quoi. Avec une Wii Motion Plus bidule, machin... reconnaissance de mouvement sans problème.
On rappelle, et c'est d'importance, que finalement le projet Natal avait été proposé à Nintendo. Nintendo qui l'avait refusé.
Exactement.
À l'époque où ça s'appelait bien évidemment pas Natal, parce que c'est pas une technologie créée par Microsoft.
Effectivement, ouais, c'est une autre société qui a été rachetée depuis, dont le projet a été racheté par Microsoft.
Ouais. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, là on a parlé exclusivement de Natal. Parlons un petit peu du motion controller de la PS3. Est-ce que le simple fait que là on l'évoque très furtivement veut dire. Est une jauge de l'attente des joueurs un peu sur cet accessoire ? Guillaume, je te vois lever les yeux au ciel.
J'ai pas été très soufflé par la démo à l'E3, hein, honnêtement. Enfin voilà.
Je te dise de plus.
En plus, moi, ça me fait penser à Light Eye en fait.
Oui, c'est
vraiment,
ça, c'est Light Eye amélioré.
Ils vont le lancer comme un accessoire et comme un peu Light Eye à l'époque, quoi.
Enfin, je demande qu'à être surpris, hein. Voilà.
Moi, on l'a déjà évoqué, mais moi, ça me paraît nettement plus compliqué pour le grand public parce qu'il y a des histoires de couleurs, de changement de sphère. Ça reste.
Mais ils ont le cul entre des chaises quand même.
Et puis, c'est un accessoire que tu peux pas. Enfin, tu peux pas avoir genre ton cône de glace dans une main et la manette dans l'autre, quoi. C'est pas possible. Et puis, on a aussi, disons-le, quelques retours de développeurs qui ont touché à des kits et qui se montrent pas particulièrement convaincus non plus par les possibilités du truc, quoi. Donc,
Et puis, apparemment, ça a du mal justement à séduire. Il y a très peu de jeux qui seraient en préparation là-dessus qui utilisait les motion controllers. Et puis je trouve qu'en termes même purement marketing, d'un côté vous avez Nintendo qui est arrivé, qui a proposé on s'affranchit de la manette, ça fait tilt dans la tête des gens. De l'autre côté, on voit une autre offre que Microsoft, il faut surenchérir si vous voulez marquer la tête des gens. Mmh. Bon bah là, ça, on s'affranchit même de tout objet dans vos mains. Mmh. Et puis d'un autre côté, au milieu du guet, vous avez Sony qui va vous dire bah c'est comme la Wii, mais
aussi,
c'est
hein,
pas comme, mais c'est moins pratique que la Wii. Et puis on arrive après et puis ça marche moins bien parce que c'est la reconnaissance avec la caméra et que pareil, si les conditions lumineuses ne sont pas excellentes, enfin c'est un peu régal.
Non, la grosse différence effectivement avec la manette, enfin la sphère, etc., c'est de la réalité augmentée. Mmh. C'est-à-dire que contrairement à toutes les autres choses qu'on a vues, là en fait on aura notre espèce de micro dans la main, enfin de sphère, et on verra en fait à l'écran je sais pas, le sabre laser ou le fouet qu'on aura dans la main. Donc c'est pour
mais
moi
pas,
c'est
pas toujours, parce que par exemple un des premiers jeux c'est le Resident Evil, on le verra pas.
Pas toujours, mais je crois que l'intérêt aussi, enfin si on cherche un intérêt, on va dire, à cette chose, c'est peut-être plus du côté de la réalité augmentée qu'on n'a pas forcément dans les autres. C'est-à-dire qu'effectivement là, bah, les démos qu'on a vues à l'E3, il y avait un fouet qui était excellemment bien retranscrit, mm-hmm. ou un sabre, ou tout ce qu'on peut avoir dans la main. Donc c'est plus le côté réalité augmentée qui à mon avis va faire parler plutôt que le côté genre objet pour à la Wiimote quoi.
Bah justement c'est ce que dit Julo, ça fait très hypette, hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand t'as une PS3 d'avoir justement cette technologie qui finalement va pas être ultra
alors là
avancée,
je sens qu'on va y avoir oui mais non,
mais non
là, c'est, là je saurais pas te répondre, je suis pas Sony, mais c'est vrai que ceci dit moi je pense qu'effectivement la réalité augmentée c'est un truc qu'on voit pas trop en ce moment. Enfin, qu'on voit beaucoup dans l'iPhone et dans les applications iPhone, et c'est un truc qui parle vachement au grand public, mine de rien. Puis à nous aussi, hein, la réalité augmentée, c'est assez marrant. Et là, effectivement, Sony, c'est peut-être le seul à proposer un accessoire qui a un peu de réalité augmentée. Voilà.
Ah bah justement,
enfin, ça reste une réalité augmentée dans ton salon aussi. Tu vois, la réalité de l'iPhone, c'est dehors, tu
oui,
peux
c'est
voir qu'il y a.
Ouais,
c'est un
clair.
Autre avantage.
C'est clair.
Bon, à suivre, en tout cas, vous aurez compris à l'écoute de ces différents propos que c'est vrai que la tension, globalement, hein, se porte vraiment sur Natal, avec beaucoup de points d'interrogation encore. Et c'est vrai que pour l'instant, Sony doit convaincre avec le motion controller, avec des applications, on ne le répétera jamais assez.
Oui.
Mais c'est les jeux qui feront la différence et pas les technologies. Finalement, on s'en
depuis
fiche
toujours.
Un petit peu. Effectivement, depuis toujours. Et puis, qui sait, 2010, n'oubliez pas, c'est aussi l'arrivée du motion sensor de Nintendo qui va peut-être bouleverser notre manière de jouer avec un fil à la patte.
Vitality
sensor, le truc que nous allons accrocher à un petit doigt qui va. Et finalement, est-ce que c'est... Et si c'était une bonne idée,
ouais.
Si finalement dans un jeu d'horreur ou quoi que ce soit, le fait de capter réellement ses battements de cœur, donc son rythme qui change, bah c'était pas, ça n'avait pas un influx ludique sur les choses. Qui croit là?
C'est une bonne idée, sauf non. Que imagine toi que tu tiens une Wiimote et que t'as ce truc accroché au doigt, ça va être pénible quand même.
Si tu le mets à l'orteil.
Déjà que t'avais l'air.
Si à l'orteil. Parce que ça marche aussi avec l'orteil.
Et si ça peut se jouer avec, justement, la Wiimote, tu peux la tenir dans une seule main. C'est ça le principe aussi. Donc tu peux avoir sur ton autre main le.
Bien joué quand tu joues maintenant.
Non, mais imaginez, vous vous rappelez de ce jeu qui s'appelait Eternal Darkness?
Ouais.
Et dans ce jeu, en fait, quand tu perdais un peu le. Enfin, quand tu stressais et que tu perdais un peu le contrôle, quoi, la réalité se transformait et tu voyais, t'avais des visions, quoi, d'horreur, etc.
Ouais, donc, sauf que dans ce jeu-là, c'était géré par une jauge et par le gameplay du jeu, alors
exactement.
Que ça pourrait
être
géré.
Si ça peut être, ça peut être géré par ton rythme cardiaque, ça peut être rigolo. Enfin,
donc ça
après,
va faire exploser
comme d'habitude et tout,
les ventes de médicaments, les calmants, etc. Parce que les gamers vont vouloir rester calmes pour avoir des bonnes perfs. Ça va être flippant.
Je vais une boîte de Prozac. Avec
c'est
mon
ça,
jeu d'horreur, s'il vous plaît.
Flippant. Bon, à voir, mais n'oublions pas non plus.
Voiture aussi, pour quand même, ouais. Tu vois, t'as vu qu'il se trouble. Si jamais ton rythme cardiaque, il est.
Ah bah et pour Mario, tu fais quoi?
Je ne sais pas.
Pour Mario, tu
vois
rien.
Pas trop.
Mais ouais, n'oublions c'est... pas une chose qui a été quand même très très rarement dite, c'est que cette chose, ce Vitality Sensor, existait déjà il y a plus d'une dizaine d'années chez Nintendo, sur Nintendo 64, avec un jeu qui c'était Tetris. Et on branchait exactement la même chose, ça n'est sorti qu'au Japon, ça se mettait sur son doigt, et plus on stressait, plus les briques tombaient de plus en plus vite.
L'horreur.
Il fallait se calmer pour pouvoir jouer avec ça, et c'est vrai que finalement c'est passé complètement inaperçu à l'époque, hein, mais ils ressortent quand même un petit peu des fonds de tiroir.
Ils aiment bien
alors
quelque
là,
chose,
c'est
vrai que c'est vraiment
mal.
Pour ça.
L'idée me plaît en tout cas.
Ah, tu vois, peut-être que. À voir, mais je pense qu'à l'E3, ils vont nous montrer des jeux qui utilisent cette technologie.
Oui,
j'adore dire cette technologie.
Fois, ouais.
On verra bien, en tout cas c'est clair que cette E3 2010 risque d'être très chargée. Allez, je vous l'avais promis, on est à la moitié du podcast, on va maintenant s'intéresser vraiment au jeu, et purement au jeu, mais avant ça j'aimerais bien un petit tour de table rouge laquée, histoire de... Allez, on est dans le mode de boule de cristal, à votre avis, quel va être, qui va être le grand vainqueur de l'année 2010. C'est un petit peu la ritournelle à chaque fois, mais c'est intéressant de voir un petit peu les sensibilités de chacun et pourquoi. Guillaume, à ton avis, quelle est la plateforme, qu'elle soit de salon ou portable, qui va s'imposer cette... Enfin, qui en tout cas va tirer le... La plateforme de jeu, donc la PS3, la Xbox, la machin, d'accord. Mais qui va se tirer son épingle du jeu en 2010.
Il en sait foutre rien. Absolument rien. Non, et j'espère qu'on effacera ce podcast dans 12 mois parce que de toute façon on aura tous l'air de cons.
On fait pour ça aussi.
Bah oui, je me doute bien. Non, bah la PS3 avec sa baisse de prix est vachement bien partie, quoi. Et ouais, elle devient super attractive par rapport à tout ce qu'elle a sous le capot, quoi. Donc ouais, c'est sûr que je pense que c'est la plus à même.
Ce sera là pour une fois, on aura raison de dire ce sera enfin l'année de la PS3. Ça fait 2 ans qu'on dit ça.
C'est enfin l'année de la PS3 2010, voilà. Mais sinon niveau jeu, moi je miserais sur Mario pour le retour de Yoshi.
Avec New Super, enfin, pas New, mais avec Super Mario Galaxy 2.
Galaxy 2, voilà.
On va en parler dans quelques instants. Ragal, toi, à ton avis, qui va s'en tirer le mieux ?
En termes de développeur ou de console ?
De console.
De console, je pense, ouais, je rejoindrai Guillaume, parce qu'il a souvent des bonnes analyses, n'est-ce pas ? Non, mais c'est vrai que
j'ai de la chance.
Ouais, non, je pense qu'effectivement, on le dit, hein, la baisse de prix de la PS3, de plus en plus d'éditeurs qui développent dessus. Xbox avec Natal, je pense que justement ça risque de on sait pas justement, ça risque, il y a des développeurs qui vont aller dessus mais on sait pas si ça va marcher ou pas. Je pense que ça va être une bonne année pour la PS3, clairement. Clairement.
Traz, ton point de vue.
Je vais être super original mais je suis assez d'accord aussi. Donc on l'a vu sur la dynamique de fin 2009, hein, ils ont quand même boosté leurs chiffres de vente par rapport à 2008,
mais ça reste
bien sûr
bien inférieur à la Wii.
C'est bien inférieur à la Wii, mais la Wii est
la Wii ralentit
sur une pente plutôt descendante. Donc a priori normalement en 2009, si les statistiques en 2010 pardon, donc cette année, si les statistiques sont logiques,
je pense pas que ça rattrape non plus, hein, non, parce que non, la Wii a une telle avance que c'est pas loin. Possible, faut pas rêver non plus.
Mais en tout cas sur les ventes de l'année, peut-être
sur les ventes de l'année, oui non c'est clair.
Encore la dynamique est clairement aujourd'hui la PS3, c'est sur du long terme, hein, donc voilà, s'ils sont raccord avec eux-mêmes, ça peut durer encore 3-4 ans comme ça.
Mais la question peut se poser si par exemple hypothétiquement Nintendo annonçait lors de l'E3 au cœur de l'été 2010 une nouvelle machine qui lancerait, imaginons à Noël 2010, est-ce que les gens du coup freineraient pas, ou un certain public?
Ça j'y crois pas, mais bon.
Non, quoi, Nintendo, tu crois pas au lancement?
Ils vont rien annoncer du tout à l'E3, j'en suis quasiment sûr. Ils sont pas comme ça, Nintendo, c'est impossible. Enfin, je peux me tromper évidemment, mais
c'est ça qui est intéressant.
J'ai mal à croire qu'au bout de 3 ans et demi, ils annoncent une nouvelle machine de salon, j'y crois pas trop.
Hein. En même temps, là, ils sont un peu à la traîne, ils sont obligés de passer à l'HD, hein, maintenant.
Ou alors de
un nombre de familles qui a des télé-HD.
Ils peuvent toujours aussi sortir une machine qui est rétrocompatible au niveau software et hardware.
Je l'imagine absolument pas si elle n'est pas rétrocompatible avec la Wii, c'est évident.
Julo.
Ouais, si la question c'est la console qui va le plus se vendre, ça va être évidemment la DS, clair et net. Après, effectivement, je suis d'accord avec mes collègues. La PS3, on l'annonce depuis 3 ans. Ça va être l'année de la PS3.
C'est la bonne.
Cette fois-ci, c'est vrai, les gars.
Jamais 203.
Oui, ça va être l'année de la PS3. Vous pouvez enregistrer.
Non, mais les gens vont vraiment croire. En plus, qu'on est acheté sur la PS3, mais c'est absolument pas le cas. Mais c'est vrai qu'on regarde à chaque fois et qu'on sent qu'effectivement, il y a une dynamique.
Mais sinon, ça me paraît évident que la Wii et la DS s'en sortiront mieux en termes de vente pure que les autres.
Raon.
Je suis pas persuadé que la Wii va continuer sur les mêmes dynamiques que les années précédentes. Donc je sais pas.
Parce c'est
que...
pas la même dynamique, c'était déjà plus la même dynamique.
Non mais je suis même pas sûr qu'en 2010, si tu veux, elle se vendra mieux que les autres. Je sais pas.
Ah bon.
Vraiment.
En gros, tu penses
je
même
sais pas
une
si
stagnation, mais une vraie chute en fait, finalement.
Bah pas forcément.
Proportionnellement.
Pas seulement une chute de la Wii, mais peut-être une accélération des autres surtout. Parce qu'il y a vraiment des barrières psychologiques de prix qui sont tombées et c'est vraiment très important.
C'est franchement qu'elle se casse grave la gueule et que les autres
accélèrent bien.
Sérieusement,
ouais.
Sérieusement. Hein.
Oui, peut-être. Je sais pas. Enfin, disons que je serais pas aussi catégorique sur la Wii. Quoi.
Et surtout là où Microsoft et Sony sont quand même très forts aussi, mais ils peuvent se le permettre, c'est que ils parviennent à faire des bundles avec des jeux.
Il y a des system sellers qui arrivent aussi.
Voilà, exactement. Qui cassent la baraque, alors que sur Nintendo.
Oh bah quand même, hein, voilà. on va le voir tout à l'heure, Nintendo cette année normalement ça devrait être du Super Mario Galaxy 2, du Metroid, du Zelda.
Mais c'est jamais proposé en pack, ça.
Mais parce qu'ils s'en fichent, ils en ont pas besoin. Non mais c'est vrai, il faut relativiser aussi quand même.
Ouais, mais c'est toujours des jeux Nintendo.
New Super Mario, ah bah ça, ouais, mais bon, quelque part eux ils s'en fichent un peu.
C'est clair.
Puis c'est leur force, hein, je veux dire, voilà.
Oui, bien sûr.
J'aimerais juste vous poser une dernière question avant vraiment de parler des jeux à proprement parler. Est-ce que vous pensez que si Nintendo, on est dans de la prospective pure, hein, annonce une nouvelle Wii, une nouvelle quelque chose, une nouvelle machine à cette E3-là et qu'elle sortait par exemple à Noël, est-ce que vous pensez que si elle est juste plus puissante, elle va satisfaire et elle va convertir ceux qui avaient acheté la Wii, qui était donc un public néophyte du jeu vidéo. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir la même chose une deuxième fois ? Ou est-ce que ce public-là, finalement, se satisfait de la Wii ? Point.
Je pense que ce sera essentiellement une question de marketing. Avant tout, vraiment pour ces gens-là, en tous les cas. C'est-à-dire que, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire récupérer un produit et trouver à qui est-ce qu'il faut le vendre et comment le vendre à ce public. Pour moi, ça va être surtout ça qui sera déterminant. Et en la matière, il faut quand même avouer que Nintendo, est, ils se démerdent pas comme des queues de pelle en marketing.
Ils savent vendre. Ils
Donc, je pense que s'ils arrivent à créer, en fait, tout bêtement, le besoin de passer à autre chose, parce que, honnêtement, il y a quand même toute une frange de ces acheteurs de Wii qui se sont lassés ou qui vont se lasser d'ici là de l'expérience Wii. S'ils arrivent à créer une attente par rapport à ça, ça devrait fonctionner en théorie.
Royal.
Moi, je suis pas totalement d'accord. C'est que d'un côté, je comprends l'angle de l'analyse. D'un autre, donc, on parle bien du fait s'ils annoncent une console en juin et qu'elle sort à Noël. Déjà, il faudrait que les gens le sachent, que le grand public le sache. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est les joueurs et le grand public, c'est, là-dessus, c'est une grosse différence.
D'où le marketing aussi.
D'où le marketing. Et deuxièmement, je pense qu'il y a chat chaudé craint l'eau froide, quoi. C'est-à-dire que combien de gens non-joueurs autour de moi ont acheté une Wii ? Ils sont contents, mais ils l'ont sorti une fois ou deux. Ouais. Voilà, on leur a offert à Noël, en cadeau de Noël. Est-ce qu'ils vont dire, je vais remettre 250 euros, 300 euros dans une nouvelle console pour la sortir une fois ou deux ? C'est ça, moi.
Ça va être un placement de prix en dentelle. Il va falloir vraiment, mais alors vraiment cibler très précisément.
Est-ce que c'est le contraire de la PlayStation à l'époque d'ailleurs, parce qu'à la PlayStation, ils avaient imposé une marque et simplement en faisant une console plus puissante, tu vois, et sur le buzz de la marque PlayStation qu'ils avaient imposé mine de rien à l'époque aussi sur un beaucoup plus grand public que les concurrents, ils profiteront pas de cet effet-là Nintendo pour les raisons que tu évoques.
Est-ce que le fameux nous avons échoué avec la Wii de Satoru Iwata, président de Nintendo, ne prend pas tout son sens ici. Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire « Oula, on s'est coupé d'une certaine frange des gamers, on a touché un public incroyable, mais est-ce qu'on arrivera, pour la suite, à le convertir ou à les faire reacheter une nouvelle console, etc. »
Je pense que oui, sauf que pas là. Je pense que 2010...
Oui et non.
Je pense que 2010, c'est trop tôt, en fait. Je pense que 2011, oui, mais 2010, ce serait trop tôt parce que les gens, ils viennent de l'avoir, la console, hein, quasiment.
Ils vont l'acheter à Noël, là, aussi.
Ils viennent de l'avoir, surtout avec un prix équivalent aux autres consoles, quoi.
Voilà. Donc,
c'est la première fois, ça.
Donc
ça
vous seriez
serait trop tôt. Ça serait trop tôt pour.
Je pense qu'ils l'ont consommé exactement comme un lecteur DVD ou autre chose, et tu changes pas de lecteur DVD tous les deux ans, quoi. Ouais.
Donc a priori quand même, vous êtes plutôt pour militant, de dire qu'ils n'annonceront pas de Wii 2.
Ils peuvent l'annoncer, mais la sortir pour Noël tout de suite là.
Non, mais annoncer déjà, c'est mettre dans la tête des gens attention. Tu vas acheter un truc qui va être pourri dans un an.
Non, puis les conférences E3 de Nintendo, autant les conférences Sony et Microsoft, il y a des trucs, autant les conférences de Nintendo. Tout le monde rigole là autour, mais parce que
on attend la magie.
Voilà,
c'est
les
conférences
Nintendo aujourd'hui, il y a plus d'annonces, ils annoncent plus rien.
Il y a même plus de bonjour.
Voilà, c'est.
Mais Nintendo commence à le comprendre, et ils commencent à comprendre que ça peut leur porter préjudice, et c'est pour ça qu'il y a eu ces déclarations d'Iwata. Cela dit, Nintendo n'est pas à l'abri de faire une grosse erreur et de l'annoncer en juin et de la lancer en décembre. Le truc, c'est qu'ils ont quand même des gros chantiers. D'abord, ils doivent récupérer la confiance des gens, parce qu'il y a un truc faut aussi pas oublier, c'est qu'à l'époque, t'avais le Seal of Quality de Nintendo qui bloquait énormément les productions branle-branle, tu vois, qui fonctionnaient pas bien, etc.
Alors là, les vannes, elles se sont ouvertes.
Aujourd'hui, les vannes sont complètement ouvertes et Nintendo accepte absolument tout et n'importe quoi.
C'est un très gros risque. Non, mais c'est un très gros risque. Et c'est pour ça que dans les années 80, l'industrie s'est complètement pété la gueule parce qu'il y a une inondation de jeux pourrave, quoi. Et ça,
et là, je pense que Nintendo,
si tu nous écoutes,
voilà. Nintendo, je pense, a compris ça, et c'est les déclarations d'Iwata, et ils vont essayer de récupérer un peu, pas seulement les gamers, mais si tu veux, la confiance des gens sur les produits. Et les gens qui ont sorti leur Wii une seule ou deux fois dans l'année, et qui n'ont pas été abreuvés en bon jeu, machin, et qui ont eu surtout trop de déceptions, bah, il y a ça. Il y a le Seal of Quality,
ouvrez les
lancer des jeux pour gamers. Et puis il y a tout l'aspect communautaire.
Parce que moi, quand Tefal a lancé sa nouvelle machine à raclette, je suis resté fidèle à ma première machine raclette, hein, que j'aime toujours d'amour, mais je la sors une fois, effectivement, une fois par an. Bon, et bien à suivre, en tout cas, vous aurez eu un petit peu les tendances, hein, qui émergeaient en janvier 2010. On sera peut-être ridicule dans quelques mois, mais au moins, voilà, on a essayé de l'étayer avec les arguments les plus vrais, en tout cas, ce qu'on pense au fond de nous. Allez, il est temps de passer vraiment au jeu, et on va commencer avec les exclusivités. Et franchement, en 2009, la Xbox 360 n'a pas eu de... Elle a eu certaines fortes exclusivités, mais pas autant que les années précédentes, et ben en 2010, les choses devraient se rétablir quelque peu, puisque on a quand même Halo Reach qui va sortir, grosse exclu, Mass Effect 2, Splinter Cell Conviction, Alan Wake, Crackdown 2. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce line-up ?
Il serait temps. Parce qu'il y a certains jeux, là, on en entend Guillaume. Parler depuis quand même 2-3 ans, même plus. Hein. Non, Alan Wake, j'ai envie de voir. Ça intrigue. Hein, c'est
Mais moi, j'ai plus envie de voir, moi.
Ah bon ?
Ah ouais ?
Autant j'étais le. Quand je l'ai vu à je sais plus quel XO, enfin, quel événement qui remonte. C'est la première fois, je crois, de la première fois dans une présentation où à la fin, j'ai applaudi, comme un gland, avec. Avec tout le monde. Tout le monde a applaudi. Voilà. Maintenant, ils ont changé. Il est plus sur PC, il est plus que sur Xbox. Plus il avance, moins je l'attends. Même si ça annonce effectivement un jeu de qualité, hein, mais je l'attends moins. Mais moi, ce que je vois dans cette liste, c'est une liste intéressante. C'est une liste de gros titres. Mais 2009, quand même, il y avait GTA 4 et l'exclusivité des contenus téléchargeables, qui était une grosse annonce pour Microsoft. Et là. Bon, on est en début d'année, hein, donc on sait pas ce qui va arriver en fin d'année. Mais c'est des gros jeux, c'est clairement des jeux gamers. Il n'y a pas des jeux qui sont générationnels comme un GTA. Qui sont au-delà, on va dire, d'un potentiel gamer.
On parle bien évidemment des exclus, parce qu'on va parler tout à l'heure de GTA 5 qui sortira, mais qui sera multi.
Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait par rapport au DLC. C'est vrai que là, pour le moment, on va parler des jeux dits traditionnels qui vont sortir en boîte, etc. Mais il y a sûrement, dans les tendances de 2010, une bataille qui va se faire aussi sur l'exclusivité des DLC, puisque les exclusivités de jeux eux-mêmes sont trop chères. Et ça serait, à mon avis, pas étonnant que ce qui s'est passé avec GTA côté Microsoft se repasse avec d'autres projets, d'autres éditeurs sur différentes machines.
C'est même sûr, non, mais très, très bonne analyse.
Merci.
Donc pour l'instant, on est plutôt sur des belles exclusivités. Quel est le titre, vous, qui sort le plus du lot ? On a vu très dernièrement les premières images d'Halo Reach. Ouais, moi, j'aurais aussi envie un peu de défendre Alan Wake quand même. Parce qu'Alan Wake, moi, je l'ai pu le voir à l'E3 dernier.
Ça a l'air d'être un trip quand même.
Et franchement, moi, je trouve qu'il s'annonce bien. Au-delà du fait, imaginons qu'on ne sait pas, qu'on l'attend depuis aussi longtemps et que du coup, on va découvrir le produit final. Sa rythmique, coupée vraiment en épisodes avec un cliffhanger final.
Ouais, moi, c'est vraiment la narration que j'attends. Quoi. Ouais. Moi,
c'est
l'aventure, le trip.
Une histoire. Hein. Voilà,
c'est Remedy.
Ouais, la narration, c'est vraiment moi ce qui me parle dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'avais adoré BioShock 1. C'est pour ça que j'attends pas trop le 2.
Il y a des trucs intéressants. Ouais.
On va en parler dans quelques instants.
Mais la narration, effectivement, peut être intéressante. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on voyait à l'époque, les années passant, ça reste impressionnant, mais moins qu'à l'époque.
Je t'arrête tout de suite parce que technologiquement, quand même, vraiment.
Je t'arrête tout de suite.
Mais les jeux de lumière, les jeux d'ombre, le travail. Le travail vraiment sur la mise en scène. Moi, je vois vraiment cette scène où t'as des cris hallucinants et puis t'as cette forêt qui s'effondre à 300-400 mètres de toi. T'es vraiment immergé dans cette ambiance. Le travail sonore est très très impressionnant. Moi, j'ai vraiment été pris, et la narration, vraiment, effectivement, je te rejoins, Ragal, va être déterminante sur ce titre, puisque on incarne un auteur, il a perdu la mémoire, il joue les pages qu'il est censé avoir écrit. J'espère, entre guillemets, mais c'est le cas de beaucoup de titres. On pourra parler des V-Rain tout à l'heure.
Il y a une vraie maturité de la narration qui est arrivée en 2009 et qui, indubitablement, va se poursuivre en 2010. Que ça soit un shooter ou que ça soit un jeu d'action-aventure ou que ça soit n'importe quoi d'autre, ça va devenir vraiment déterminant, c'est certain.
Et moi, par exemple, mais là, c'est une fois de plus très subjectif, je suis moins emballé parce que j'ai découvert Halo Reach. Ça veut dire qu'on l'annonçait, on a entendu les déclarations du jeu de 2010 qui allait enfoncer toute la concurrence. Il est fort probable qu'en termes de vente, il fasse un carton monumental. Effectivement.
Quand tu vois comment a marché ODST alors qu'il était techniquement à la traîne.
Mais j'ai pas pris ma claque avec ce que j'ai vu d'Halo Reach. Alors probablement, là je parle pas de gameplay, il sera probablement très riche et j'attends d'en apprendre beaucoup plus aussi quelque part. Mais j'ai vu un blockbuster bien formaté, bien américain, avec des mecs, des badass qui allaient se défoncer la gueule, quoi. Mais je l'ai déjà vu 10 000 fois, quoi.
Mais en tous les cas, ça reste un des gros jeux Microsoft à surveiller parce qu'effectivement, Halo.
C'est le multi avant tout, Halo. Hein, et...
Les gens
attendent surtout
devenu,
ça. Quoi.
C'est ça qui est triste, parce que le solo du premier Halo est colossal. Il est fantastique.
Exactement. Et en matière de multi, il a de la concurrence avec les Modern Warfare et tous les autres shooters qui arrivent et qui ont des multi qui détonnent. Même si le multi de Halo est particulier dans son allure, Je sais, Rich, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le premier moment où on va pouvoir y jouer, ce sera effectivement la bêta multi. Donc, t'as peut-être raison,
ça veut tout dire,
par rapport à ça. Mais je crois qu'ils ont vraiment une carte à jouer aussi au niveau du solo. Et ce qu'on en a vu au VGA, en tous les cas, en termes de in-game, il y a quand même enfin un vrai progrès. Parce que,
oui, il y a un vrai progrès, mais je les trouve vraiment en retrait par rapport à un Modern Warfare 2, un Medal of Honor maintenant, enfin n'importe quel FPS de haut de panier. Halo Reach m'a absolument pas bluffé, c'est propre, point.
Oui, bon, bah, c'est une remise à niveau, on va dire.
Voilà.
Effectivement, bah, on verra comment ce sera à jouer et ce qu'ils proposeront vraiment.
En même temps, c'est pas plus mal d'avoir un truc qui se déroule un peu dans le futur plutôt que d'avoir toujours
bien sûr,
truc contemporain, Seconde Guerre mondiale.
Ah oui,
ça change un peu, quoi.
C'est pareil, hein, je veux dire, effectivement.
Clairement. Est-ce que Splinter Cell Conviction fait partie aussi des titres que vous attendez?
Ah bah, tu parlais de mise en scène différente, là, c'est intéressant. Enfin, ce qu'on nous a montré aussi à l'E3, les incrustations des objectifs dans les
souvenirs
et tout, voilà, tout ce qui apparaît. Ça, c'est intriguant aussi dans la mise en scène. Justement, on peut vraiment parler de mise en scène là pour le coup.
Bien sûr.
J'ai envie de voir ça. Ouais, ouais.
Mais c'est aussi, pour reprendre ce que tu disais, Ragal, tout à l'heure, un jeu qu'on attend beaucoup puisque le jeu devait être sorti déjà il y a plus d'un an. Il a été refait à zéro. Est-ce que c'est
bon signe,
un développement qui a l'air compliqué? Est-ce qu'au final, ce ne sera pas un jeu qui sera un peu entre deux chaises?
S'ils ont pris le temps de repousser, de repenser, de voir ce qu'ils disent, ah ben on fait fausse route, ouais, je préfère qu'ils reculent, qu'ils attendent.
Mais Ubisoft,
encore plus.
Ubisoft est capable du meilleur.
Comme du pire, on peut le dire.
Oui. Ubisoft est capable du meilleur comme du pire. Hein, donc, moi, Assassin's Creed 2, notamment, par exemple, en 2009, je n'attendais pas tant que ça après le 1, et puis voilà, j'étais surbluffé de partout. Donc,
c'est marrant.
Donc voilà, Ubisoft peut se remettre en question et peut faire un Splinter Cell Conviction de haute volée.
Enfin, ils ont un gros nom, ils peuvent pas se permettre de bousiller une licence à la va-vite, quoi. Et puis comme le disait de son Miyamoto, un mauvais jeu qui sort, il sera tout le temps mauvais. Ouais. Un jeu en retard, il a des chances d'être bon, quoi.
C'est certain. En tout cas, Julo a eu la chance de pouvoir jouer au coop. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Le mode coop, il s'annonce très bien. Moi, j'avais adoré le premier Splinter Cell. Je sais plus lequel c'était, qui avait eu un mode online. Tu jouais à deux contre deux, en fait, deux sentinelles et deux qui s'infiltraient. Bon, là c'est plus du tout ça. Maintenant c'est un vrai mode coop, mais ils ont fait un vrai jeu. C'est-à-dire que tu as 6 heures de jeu environ, avec je ne sais plus combien de missions exactement, mais en gros tu vas jouer 4-2 et dans des niveaux spécialement créés pour la coop, et donc tu vas avoir tous les trucs classiques qu'ils ont inauguré avec cet épisode, notamment le targeting des
le mark and execute. Ça ressemble un petit peu au Spec Ops de Modern Warfare 2, en fait, finalement. C'est des petits niveaux comme ça que
t'explores. C'est pas des petits niveaux, c'est des vrais niveaux, et surtout tu vas pouvoir donc faire du mark and execute à plusieurs, enfin à deux, et tu vas pouvoir donc monter sur des oui, parce que c'est uniquement deux joueurs par contre, hein.
Mais ça reste plusieurs,
deux, hein, c'est plusieurs.
Et d'accord,
ah, vous rigolez là, hein.
Ce n'est pas deux.
Non, en tout cas, ça s'annonce vraiment sympa comme mode, voilà.
Bon bah très bien. Est-ce que, juste rapidement, pour conclure sur les exclus 360, Mass Effect 2, très attendu aussi?
Ah bah oui, c'est une exclu 360.
Il sortira sur PC,
voilà,
aussi.
Sur PC aussi. Faut pas oublier le PC, hein, n'est-ce pas, Monsieur Ragal, qui joue beaucoup sur PC. Bah, Mass Effect 2, encore une fois, on attend de voir plus précisément les à-côtés de l'aventure, c'est-à-dire l'exploration de la galaxie et les planètes, etc. Mais ça s'annonce très bien, oui. Bien mieux que le premier, avec pas mal de petites erreurs corrigées. Genre, il n'y a plus d'ascenseur à la con, etc. Bon, ce qui n'empêchera pas qu'il y aura des loadings, apparemment. Ouais. Mais en tous les cas, moi, de ce que j'en ai joué, c'est beaucoup moins découpé, beaucoup moins haché et beaucoup plus fluide. Mais ça sera indubitablement un gros RPG de l'année. Ouais.
Très bien. Et ben, on va passer maintenant aux exclusivités de la console dont vous avez globalement à peu près tous dit qu'elle va être celle qui va tirer le mieux son épingle du jeu en 2010. Clair. Alors, on va voir avec quelles cartouches, quels arguments la PlayStation 3. Bah, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de gros titres. On pense en exclusivité à Gran Turismo 5, Heavy Rain, God of War 3 et The Last Guardian, qui lui devrait arriver vraiment en toute fin d'année 2010. Messieurs, quels sont les titres un petit peu qui sortent du lot pour vous?
Tu veux dire, à part The Last Guardian, qui est clairement devant les autres?
Mais sur lequel on sait pas grand chose encore pour l'instant.
Non, on sait pas grand chose, mais alors quelle envie.
Mais l'un sur lequel on connaît beaucoup plus de choses, c'est Heavy Rain, du lot.
Ouais, ce sera le premier à arriver d'ailleurs.
Février.
Voilà, en février, on ne sait pas encore exactement quel jour.
A priori le 28.
28, voilà. Bah, Heavy Rain, vous parliez de narration tout à l'heure. Bah, voilà, c'est ça. Le propos est là. Vraiment, c'est ils essaient de pousser la narration avec un gameplay certes un peu en retrait diront certains. Alors c'est vrai que c'est un peu un film interactif, et puis même les développeurs ne refusent pas ce terme à condition
ils ne le refusent plus.
Ils l'ont refusé au début et maintenant c'est voilà.
Ouais,
parce que en fait c'est vrai que ça fait référence à tous ces jeux sur CD.
Parce qu'il est temps de voir la réalité en face.
Dans les années 90, tu pouvais choisir une direction ou une autre pour faire prendre plus ou moins une autre direction au scénario, etc.
Là t'es plus impliqué
vraiment,
quoi.
Voilà, c'est... t'es plus impliqué. Il y a des il est censé y avoir des vraies répercussions entre ce que tu décides de faire et ce qui se passe ensuite. Et puis après il y a un découpage comme ça, t'as différents personnages que tu vas incarner, ils sont tous liés autour d'un tueur, c'est un vrai polar, c'est très noir, très adulte et très réaliste, photoréaliste. Et tout ça mis l'un dans l'autre, ça donne vraiment une expérience effectivement presque cinématographique.
Et tu le sais,
en tout cas,
la question que tout le monde se pose, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu encore y jouer, est-ce que c'est un quick time event géant? On a la réponse aujourd'hui maintenant, en tout cas beaucoup plus clairement.
Ah bah alors il y a des quick time de partout, mm-hmm. Ça c'est clair et net. Tu rentres dans ta voiture, tu dois faire un truc avec le stick, ensuite tu dois tourner la clé pour mettre en branle la voiture, c'est pareil. Tu dois faire un petit truc avec le stick.
Te raser.
Quand tu te rases.
Pas trop vite, voilà, parce que sinon ça coupe.
Il y a des moments contemplatifs où tu fais des trucs. Alors certains diront qu'ils ne servent à rien, mais pour moi c'est justement tout le contraire. Ça sert. C'est ces moments de rien. Mm-hmm. C'est un peu comme dans Shadow of the Colossus et ces moments où tu te baladais à cheval dans les plaines, etc. Du rien. Non, c'est pas du rien. Ça crée une ambiance. Ça te plonge dans un univers. C'est très important ces petits riens. Ça fait tout en fait. Mm-hmm. Et c'était le cas dans Shenmue. Gens qui assimilent aujourd'hui Shenmue à un quick time géant. C'était absolument pas le cas. Mais vraiment. Et donc ça sera pareil avec Heavy Rain. Il y a des quick time beaucoup, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut définir le jeu.
Toi, Ragel, t'as pu le voir rapidement, on a pu te le montrer un petit peu. Alors, c'est succinct, certes, mais quel est toi ton ressenti? Qu'est-ce que tu en attends?
Pas grand-chose, mais j'avoue que moi, j'ai un a priori négatif sur le jeu, mais qui pourra passer quand je l'aurai vraiment pris en main. J'ai un a priori négatif parce que je n'ai rien contre son auteur, hein, mais la déclaration de son auteur... parfois me dépasse un peu par rapport au jeu que j'ai sous les yeux, hein. Donc notamment,
en quoi par exemple?
Ben notamment le nom m'échappe, mais le seul jeu qu'il a fait avant,
Fahrenheit.
Voilà, Fahrenheit, la première heure,
ah non, il en a fait d'autres,
mais moi le Fahrenheit sur une heure et demie,
Nomad Soul par exemple.
Nomad Soul c'était autre chose, là c'était de la qualité, mais on va dire que
mais c'était lui aussi.
Mais Fahrenheit, passé la première heure et demie, moi j'ai été vraiment perdu, le scénario qui partait en sucette à la fin. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Heavy Rain je suis circonspect, mais contrairement à Julo, je n'y ai pas joué très très longtemps, donc j'attendrai de l'avoir en main pour le juger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas celui qui me fait le plus attendre sur PS3.
Je pense que c'est typiquement le jeu. Tu peux te tromper sur ce que t'achètes, je pense, et tu peux adorer ou détester. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure.
Ah, ça va diviser, oui, c'est une certitude.
Il y a des tas de gens qui jouent aux jeux vidéo pour qu'il se passe des choses, pour que ça aille vite, pour que ça explose, pour que ça machin. Enfin, pas forcément de l'action, mais je veux dire, pour qu'il se passe vraiment des trucs. Et il y a peut-être un côté déceptif pour des gens à qui on aurait mal vendu le jeu, etc.
Mais moi,
Guillaume, je crois que toi, tu l'attends, toi.
Qu'on me raconte une histoire, et là,
c'est précisément ça.
La demi-heure que j'ai pu essayer, la première demi-heure, on rentre vraiment dans une ambiance et je sens qu'il y a une histoire qui va être intéressante à vivre. Vraiment, vivre une histoire, c'est, voilà, ça m'intrigue, j'ai envie.
Et bah clairement, bah écoute, ça c'est en février. Normalement, un petit peu après, on va avoir un Gran Turismo 5, probablement dans le cœur de l'été. Ouais, Traz, on l'a attendu. Alors lui, on parle des jeux qu'on attend. Celui-là, poulala, l'Arlésienne de chez l'Arlésienne. Mais néanmoins, quand il va arriver, il devrait être très riche.
C'est un petit jeu de bagnole, effectivement. Ben oui, oui, on annonce les dégâts localisés. Bon, évidemment, les voitures n'explosent pas en plein vol, mais c'est déjà ça.
D'ailleurs, elles ne volent pas.
Qu'on l'attend, hein.
Non, mais ça veut dire
que
quand tu dis dégâts localisés, c'est que c'est très différent des dégâts des autres simulations où si tu te prends un choc sur la portière droite, c'est la portière droite qui explose, voilà. Mais ça ne prend ni en compte la vélocité de
l'impact, la force, l'angle
de l'impact, alors que là, ça aura un effet.
C'est des dégâts pas trop dynamiques par
rapport à ça. Alors que là, ce sera le cas. Exactement. Il y a aussi l'éditeur de circuit.
Voilà, il y a l'éditeur de circuit. Il y aura probablement plein de features communautaires aussi, avec des replays que tu balanceras sur YouTube ou des choses comme ça.
Je pense qu'il sera très très complet celui-là. Ils ont mis pas mal de temps, à mon avis, à le peaufiner. Puisqu'évidemment, il y a eu un prologue entre le 4 et le futur 5, donc. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, ils ont réussi à mettre tout ce qu'ils ont voulu mettre.
Et puis,
dans ce laps de temps-là, parce qu'on sait très bien qu'ils veulent, ils ont toujours envie de peaufiner au maximum.
Mais ils ont déjà annoncé le 6 quasiment,
voilà,
à demi-mot.
Le 6 dans la foulée.
Régal.
Et puis ce jeu-là, même qu'il soit de qualité ou pas, de toute façon, ça sera un système seller. Ça, on en est sûr. C'est-à-dire que même plus que Heavy Rain ou peut-être que d'autres jeux qui seront de meilleure qualité.
Pour la PS3.
On est sûr que la saga Gran Turismo a toujours l'aura du d'antan.
Clairement. Oui, clairement, clairement. Même si, effectivement, aujourd'hui, début 2010, il y a du Forza 3 sur la Xbox qui expose un peu tout ce qui se fait, il n'en reste pas moins que Gran Turismo. Clairement, dans l'imaginaire collectif, c'est encore marque, très, très, très fort.
Pour moi, c'est comme un PES de la course, en fait.
Voilà, exactement.
Et Forza serait plutôt FIFA, quoi.
D'accord. On voit que les choses s'inversent un petit peu aussi dans ce domaine des FIFA et des PES. Mais oui. À suivre donc. Autre titre, Raon, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Lui, il arrivera normalement fin mars. Autre titre fort exclu à la PS3, c'est God of War 3. Alors là, une violence intersidérale.
Disons que graphiquement, elle est mieux exprimée, mais c'est pas forcément ultra plus violent que les autres God of War.
Ah bah quand même, la décapitation avec la peau qui s'arrache,
les tripes
qui s'effondrent.
Par Morano.
Ah oui, Nadine, si tu nous écoutes.
C'est des raffinements graphiques qui permettent que cette violence s'exprime beaucoup mieux.
J'aurais pas dit raffinement, mais.
Moi, j'y crois à fond parce que pour moi.
Tu as joué ou pas? T'as eu l'occasion d'y jouer?
Un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur PS3 en fin 2009.
Ouais.
C'était la compile God of War 1 et 2 qu'on peut acheter pour l'instant. Elle n'était pas sortie en Europe, pour une trentaine d'euros. Et franchement, rejouer déjà au 1 ou 2 mis en HD sur PS3, c'était déjà une claque monumentale. Et j'espère qu'ils referont la même chose pour Shadow of Colossus et Ico.
A priori, oui.
Écoutez, j'espère. On peut vous le dire, normalement.
Je touche du bois.
A priori, oui.
Ils touchent du bois.
En tout cas, ils ont très envie.
Mais donc le 3, effectivement, c'est aussi un jeu de grande qualité et à mon avis aussi un système seller. C'est là on a vraiment contrairement à la Xbox qu'on avait cité, bon, Halo, etc. Là, on a quand même 2-3 systèmes sellers en début d'année.
Avec des marques très installées.
Moi, il y a quand même un truc qui me fait un petit peu peur par rapport à God of War 3. D'une part, c'est ce que j'en ai joué de la démo qui est disponible aussi dans le pack avec les deux remakes. Mais c'est que j'ai pas l'impression que ce God of War avance autant que le 2 par rapport au premier, par exemple, ou que le premier par rapport au genre en entier, d'une part. Et d'autre part, il y a tellement d'autres jeux qui sont similaires, qui s'approchent vraiment et reprennent cette formule avec plus ou moins de talent, mais en général plutôt bien.
Dans la même période, Dante Inferno, Bayonetta,
voilà, Darksiders, etc. Que ça va un petit peu le noyer, j'ai un peu peur de ça aussi. Et même, enfin, globalement, c'est une marque qui est devenue forte, mais c'est à mon avis beaucoup moins qu'un Gran Turismo pour ce qui est de vendre des consoles. Hein.
Ok, on conclut ainsi donc les exclusivités PlayStation 3. Bien sûr, il y a The Last Guardian, mais pour l'instant, vous l'avez compris, il est très haut dans notre cœur. Mais il y a peu de choses qui ont été dévoilées pour l'instant, à part cette étrange créature, ce jeune garçon dans une espèce de temple un petit peu mystérieux. On reviendra bien évidemment dessus.
J'aimerais bien que pour une fois ils mettent ça en avant à mort.
Alors,
et
qu'ils
vendent des consoles avec ça, parce que c'est vraiment tellement quelque chose que tu vois rarement. Ouais. Je ne comprends pas que ce soit pas mis plus en avant. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne ferait pas vendre, parce que ça s'adresse vraiment à un
public
sang,
des morts, la guerre, des armes.
Régal.
Pardon, un flower qui n'existe que sur le PSN, hein, donc c'est que sur le service de téléchargement de la PlayStation, on le trouve même pas dans le commerce. Moi, j'ai fait vendre des PS3 grâce à Flower.
Moi aussi, mec, vas-y, tape là.
Non, mais donc voilà, donc il suffit de parfois de montrer un genre de jeu à une catégorie de gens pour leur donner envie, quoi.
À suivre, en tout cas, vous aurez compris qu'à Gameblog, on suivra The Last Guardian et tous ses autres titres de très près. Allez, on va passer aux exclusivités de la Wii. Il y en a, mine de rien, et elles sont belles, elles sont grosses. Et là, on parlait de marque. Non, mais on parlait de marque. Et là, franchement, quelle marque? Super Mario Galaxy 2.
Yoshi!
Metroid Other M et le prochain
J'en ai dit
Zelda.
À la maison, c'est pour ça.
Alors forcément, oui, c'est de la redite. Enfin, on a, en tout cas, c'est des noms qu'on connaît. Voilà, ne plus savoir qu'en faire.
Pour Galaxy 2, oui, mais Other M, ça va être un jeu un peu nouveau. Hein.
Mais néanmoins, a priori, ça attire très fortement. Tu veux nous parler de Super Mario Galaxy 2, Guillaume?
Non, mais j'ai ma monomanie sur les Yoshi. J'en héberge 10 à la maison. C'est peut-être pour ça.
Ça doit être un sacré bordel chez
vous. Voilà. Non, c'est des petits, c'est des mini. Ça va. J'ai toutes les couleurs. ils ont tous des noms en plus. Enfin bon, bref. La présentation plus tard. Non, bah oui, bah, enfin, c'est encore un Mario, mais à chaque fois on a une nouveauté. J'espère que là aussi on aura une nouveauté, parce que si c'est une ressucée.
Ah bah, la première nouveauté, c'est qu'il n'y aura pas de scénario.
Oui, ça, par contre, c'est une nouveauté en pas top.
A priori, ce ne sera que des
missions.
En
même temps, c'est vrai que le scénario tient un peu sur un demi-ticket de métro
c'est
à chaque
sûr.
Fois. Mais bon. Je sais pas.
Mais ça donnait un petit peu de vie d'avoir un petit peu d'histoire avec les Moomas, etc.
C'est vrai que ça m'inquiète là.
Et surtout, c'est quand même l'une des premières fois où Nintendo ne fait pas un Mario 4, 5, 12, genre nouvel univers, machin, etc. C'est la suite, un 2. C'est pas un peu un aveu d'échec ou de non-créativité?
Au tout début de Mario, ils se sont pas empêchés de le faire non
oui,
plus.
Oui, ça a été un 2-3. Hein, bon, en même temps, c'était pas.
Enfin, le 3 sur 1, ouais, c'était clairement différent des autres, mais bon.
Moi, je trouve ça super décevant.
Julo. Ouais, moi, je suis d'accord, moi.
Ouais, je suis vraiment déçu par. Et ça faisait vraiment une petite annonce vite fait pour le 3, histoire d'avoir un jeu gamer et histoire qu'on leur tape pas trop dessus.
C'est une fête d'attendre à Mario.
C'est trop facile et quelque part,
ça
bride leur créativité.
Ceci dit, en même temps, je partage ce que tu dis.
Et en même temps, je te dirais oui et non.
Non, c'est qu'effectivement, là, on l'a vu en fin d'année 2009, hein, le New Super Mario Bros. Wii, ouais. C'est qu'une ressucée de tout ce qu'on a connu avant, et pourtant ça marche très très bien, quoi.
Mais est-ce que ça te laissera autant de souvenirs que les autres Mario dans 6 mois,
non? Il y a plus la découverte.
Clairement non.
Franchement, moi je pense pas. C'est-à-dire qu'on y passe beaucoup, on y passe du temps avec plaisir. Ça plaît à plein de monde, bien sûr. Mais est-ce que ça ne laissera un souvenir aussi ému qu'un New Super, qu'un Mario World, qu'un Mario 64?
Mais est-ce que c'est important finalement?
Ah bah oui.
Enfin, ah bah quand on est.
Est-ce que le dans
l'iPad, c'est non, mais quand on est gamer, oui.
Non, mais la question en fait, c'est surtout est-ce que ça suffit pas que ce soit juste un très bon jeu avec lequel tu prennes ton temps.
Tant qu'il y a de la pub
à
la télé avec des gens qui jouent et qui s'amusent, voilà, ça suffit. Hein.
Qui s'appelle Cédric
notamment.
Marion, ouais. Marion, qu'on salue bien sûr. Si vous les avez vus, vous aurez peut-être reconnu notre cadreur de l'extrême dans les pubs Nintendo. Ouais. Mais bon, c'est une autre histoire.
Mais je suis persuadé qu'ils auront encore plein d'idées dedans et que ça sera quand même super bien, quoi. Mais bon, voilà. Effectivement, oui, non, ça va pas être faire. Ah ouais, genre, c'est super nouveau et tout. Ouais.
Est-ce qu'ils garderaient pas leurs bonnes idées pour la Wii HD 2+, Prime, etc., sur lesquelles ils seraient déjà en train de travailler
avec les nouveaux
Ce serait une bonne idée.
Et que du coup, il arriverait dès le lancement.
Non,
ça fait longtemps
pas que
qu'un Mario
vrai.
N'est pas arrivé au lancement d'une machine.
Oui,
alors qu'avant c'était une tradition.
Moi, je veux un Zelda.
On a eu un Zelda.
C'est vrai.
Pas tout
mais ça n'a pas le même impact qu'un Mario hein, en termes de vente. Enfin bon, voilà sur le Super Mario Galaxy 2. Il y a Metroid Other M. Tu le disais, Raon, il risque d'être très différent. C'est plus Retro Studio, c'est la Team Ninja. Donc
voilà, c'est plus
déjà...
du tout un FP.
Ça va être super beau. Hein.
C'est plus du tout un FPA, comme il disait, hein, les First Person Action,
Adventure,
c'est ça ou Adventure, je ne sais pas. Enfin bref, donc c'est plus une vue, a priori, plus une vue en vue subjective. Et puis c'est aussi la participation de la Team Ninja, donc les créateurs de Ninja Gaiden. Et de Dead or Alive qui travaille depuis le départ d'Itagaki sur ce projet en parallèle avec Nintendo pour en faire un truc un peu plus centré sur l'action et le cinématique comme on a pu le voir lors de son annonce.
C'est Metroid meets Devil May Cry, quoi.
C'est un petit peu ça, ouais. C'est
ou Ninja Gaiden
et les cabrioles.
Plus,
voilà, donc à voir encore une fois parce qu'on n'a pas vraiment vu l'image du jeu lui-même dans son déroulement. Mais en tous les cas, c'est pas un énième Metroid Prime, ça c'est certain.
Voilà. Et je pense que ça ravira pas mal de personnes.
Probablement, ouais, même si c'était des très bons jeux.
Ah, hein. C'était des très bons jeux, oui, c'est sûr. On parle de Zelda rapidement, une fois de plus, pas beaucoup d'informations, mais on commence à avoir l'habitude hein, avec Nintendo qui lâche les bribes d'informations.
On en aura 6 mois avant la sortie.
Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un Zelda mature. Ce sera pas
enfin,
en cel-shading, a priori. Bah, il
ah, tu veux dire pas en cel-shading.
De style.
Ouais.
Mature, il va pas tuer des gens en les décapitant,
mais
ce sera un grand Zelda, pas à base de Wind Waker avec des petits traits. Hein. Après, on aime pas, ça c'est encore autre chose. Et puis, il utilisera le Wii Motion Plus à fond les pastèques.
Et ce qu'on sait surtout, et ça, il y a eu des déclarations d'Aonuma il y a pas longtemps, c'est qu'ils vont complètement revoir la structure classique des Zelda. Et ouais. Ça va être une grande première. Donc ça peut vouloir dire deux choses, ça peut vouloir dire vraiment on a envie de changer mais de rester près de notre audience etc. Ou alors ça peut vouloir dire on va essayer de trouver un moyen un peu plus casual d'approcher la formule Zelda.
Moi je pense que ça sera un FPS.
Et là c'est un peu plus flippant. Non, c'est une question de structure.
Moi je vous parie
un
grand livre.
Vue subjective.
Un grand livre de contes avec des chapitres.
Non, t'as pas compris.
Ouais,
la structure c'est genre
le déroulement de l'aventure en fait.
Explorer un endroit. Aller dans le donjon, utiliser l'objet qu'il faut, réexplorer un autre endroit, etc. C'est ça qu'ils veulent changer en fait.
Les chapitres, vous allez voir,
vous
les
allez
chapitres.
Voir, voilà, c'est ça. Ça
je doute, mais bon.
Moi je vois ça venir comme des chapitres.
Ça se trouve, ce sera un mauvais Zelda.
Ouais, à cause de ça.
Mais
on sait pas, on sait pas. Donc,
ça reste quand même le projet un peu le plus intéressant de.
Ouais, c'est super excitant parce qu'à la fois, dans autre déclaration, il a dit que bon, ils allaient. Comme point de départ, prendre Twilight Princess pour l'univers, la taille, l'ampleur, mais l'étoffer encore plus parce qu'ils en voulaient plus et que c'était un peu leur brouillon Twilight Princess. Donc bon, moi personnellement, je sais que pas mal de personnes ne l'ont pas aimé, mais moi je l'ai adoré Twilight Princess. Je l'ai trouvé grand et j'ai trouvé qu'il y avait plein d'armes, etc., qui étaient nouvelles enfin dans un Zelda où on se tape constamment les mêmes boomerangs, épées, trucs pour voir. Là, il y avait des vrais nouveaux trucs. Ouais. Il y avait une vraie ambiance à la Miyazaki sur la fin du jeu. C'était, moi, j'ai trouvé un super bon Zelda. Mais bon. Okay.
Les chapitres en soi,
hein.
C'est pas forcément une mauvaise idée,
non,
parce
si
qu'il y a, plein de jeux, de joueurs, pardon, qui s'arrêtent de jouer un moment à Zelda, qui n'arrivent pas à reprendre parce qu'ils sont perdus dans l'histoire et qui, je sais plus ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je vais faire après.
Exactement.
Et à chaque fois que Nintendo rajoute une nouvelle feature dans les jeux, ça a été exactement le cas
super
dans le Super Guide, dans le
Super
Mario
Bros.
On a tous crié en disant
qu'est-ce non, que c'est non, que ce truc ?
On n'a pas crié, nous, c'est pas
mais
vrai.
Mais enfin, moi personnellement, j'ai crié, donc j'avoue. Et finalement, c'est bien, non, c'est bien implémenté, donc exactement. Voilà, why not ?
Oui, ça y sera sûrement d'ailleurs dans le nouveau Zelda aussi, je pense. Hein.
Oui, il y a des choses.
Ils vont le foutre partout, ça.
À suivre en tout cas. Allez, on va passer. Il y a bien évidemment sur PC World of Warcraft. Oh putain. World of Warcraft. Cataclysme.
Repeat after me.
Voilà. Alors ça, c'est l'extension qui va tout déchirer. Hein. C'est quoi? C'est 12 millions, 15 millions de gens qui y jouent tous les mois, c'est ça? Tout le temps.
C'est
qui
un
vont
beau pactole,
donc avoir leur univers qui va être bouleversé. Enfin, je suis pas le mieux pour en parler. Qui veut en parler? Cataclysme. Avec deux nouvelles races, c'est les Vorgans et les, hein, et les gobelins.
Soucis. Ouais, ben moi j'ai.
Ragal.
Oui et non, puisque moi j'ai arrêté WoW maintenant.
Ayon,
moi aussi d'ailleurs.
Voilà, j'ai arrêté WoW, mais c'est vrai que il était temps. Dans le MMO, normalement, il faut à peu près une extension par an pour maintenir les joueurs en état de jouer, en fait, et de dépenser leur argent.
En état d'ébriété.
Voilà, en état de manque. Et là, normalement, bah, Blizzard, effectivement, je trouve que bah, ils ont évidemment réussi leur coup avec WoW, mais que là-dessus, ils prennent un peu trop leur temps, à mon avis. Mais faute de concurrence, ça marche toujours.
Oui, ça.
Mais,
pas très inquiété pour l'instant.
Mais moi, chez Blizzard, c'est pas tant cet add-on-là que j'attends, plutôt que StarCraft 2. Hein, qui
ah,
doit,
alors là, je mets plus ça.
Qui doit arriver quand même en 2010. Clairement.
Ouais, c'est pas sûr. Hein.
Oh, si, 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 si.
Ah,
c'est...
alors attends.
Non.
2010
Non, là, pour le coup, j'ai aucune info. Mais.
Mais t'y crois tellement que
non,
ça va
mais
arriver.
C'est sûr que la bêta, en tout cas, journaliste, dans la laquelle nous on devait faire partie, qui devait avoir lieu en septembre-octobre 2009, a été décalée au premier trimestre 2010. Donc normalement, avec un peu de chance, on aura la bêta de StarCraft 2, enfin nous journalistes ou privilégiés, début 2010, ce qui veut dire une sortie en juillet, août, septembre, ce qui est classique hein, en sortie Blizzard, les Warcraft 3 étaient sortis en juillet, août, voilà. Donc moi j'espère la sortie de StarCraft 2, en tout cas
le premier épisode.
Le premier épisode
qui sortira effectivement dans trois volets
en 2010 quoi,
avec trois campagnes voilà. Séparées, le premier les humains, ensuite les protos et en dernier les ergs, si je dis pas d'idiotie.
Et puis Diablo 3 l'année d'après normalement. Et mais en tout cas sur 2010, moi ce que je retiens c'est surtout tous les jeux, tous les petits jeux qu'on va avoir sur les plateformes de téléchargement, notamment Diablo 3, moi je l'attendais, mais en 2009 Torchlight sur la fin était juste hallucinant. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de jeux faits par des équipes de taille réduite ou quasi indépendantes
et qui seront distribués sur Steam notamment. Et effectivement
Et du coup genre en 2010 on exclut PC, qu'est-ce que tu attends particulièrement au-delà de Diablo,
au-delà de Diablo, Mafia 2, mais je sais plus si c'est une exclu.
Non, c'est une exclu.
Ouais,
en fait,
Xbox aussi, ouais.
Il y a Supreme Commander 2 aussi qui est pas une exclu parce qu'il va sortir sur 3.6 aussi,
ouais.
Mais qui sera différent sur PC de la version 3.6.
Ouais, mais que j'attends moins en fait. Ouais. J'attends moins maintenant que
Square Enix veut le consolifier.
Enfin, on m'a dit effectivement qu'ils avaient changé pas mal de choses. Hein.
Il y a pas mal de choses qui ont changé de ce que moi je l'ai vu à l'E3 aussi. Dans la version PC, pas la version 3.6, mais il y a pas mal de bonnes idées et ça reste très proche de Supreme Commander 1.
Bah, là, la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a un ami qui allait le voir à Londres et apparemment, ils ont squeezé tout ce qui faisait l'originalité du jeu.
Ah,
donc peut-être ce qui faisait aussi la faiblesse pour.
Tu veux dire qu'ils ont rapproché en fait la version PC de la version console ?
En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de. Enfin, là, attention, on est parti dans une conversation un peu particulière, mais effectivement, il n'y a plus d'économie en flux tendu. Il y a une économie classique à la StarCraft où tu vas récupérer les voilà.
Ça, c'était pas comme ça à l'E3.
Voilà, tout l'arbre technologique a été revu. Il y a moins d'unités, c'est plus simple à mettre en... Enfin, disons que ça va pas être un mauvais jeu, mais il va plus s'approcher des classiques du STR, alors qu'avant, c'était quand même un titre à part. Voilà. Donc effectivement, en termes d'exclusivité pure, il y en a pas tant que ça, puisque il y a des jeux que j'attends, mais qui sont aussi, qui sont multi-supports, hein, qui arrivent sur 360 notamment. Enfin moi, celui que j'attends le plus, c'est Mafia 2 hein, aussi notamment.
Ça a l'air de défoncer effectivement.
Ok. Bah je crois qu'il est temps de parler des jeux multi. Il y en a pas mal et ça va conclure comme ça notre podcast. Vous allez voir des gros jeux parce que bien évidemment les exclus c'est important, mais le multi aujourd'hui. Bah c'est la norme, on va dire. Et puis ça commence avec Final Fantasy XIII en début d'année. Alors moi, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon. Le jeu est sorti au Japon, hein. C'était le 17 décembre dernier. Depuis, j'ai fermé les écoutilles. Donc peut-être que vous savez qu'en fait, c'est une grosse daube ou qu'il est extraordinaire. En tout cas, pour moi, c'est le jeu le plus attendu. Il sort le 9 mars. Il a l'air absolument fantastique. Ça va me...
Faut que tu saches qu'ils meurent tous à la fin.
Très bien, super, voilà. Bon, enfin, en tout cas, ce Final Fantasy XIII, c'est le retour du RPG. Puis c'est à la japonaise, hein, bien sûr. Et puis c'est quand même une grosse s'annonce en termes de, eh ben, d'industrie, puisque c'est la première fois que le jeu sort en multi. Hein, Final Fantasy sortira sur Xbox 360, ça c'est la première fois, et sur PlayStation 3. C'est quand même une très 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 grosse annonce, ainsi que Final Fantasy 14, un petit peu plus tard dans l'année. On ne sait pas encore exactement
a priori,
quand.
Il serait possible qu'il soit décalé aussi. Hein.
Voilà, mais... on ne sait pas trop encore.
Donc le MMO, le successeur de Final Fantasy 11, donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore.
Mm-hmm. Et puis là maintenant, avec les musiques de Nobuo Uematsu, quand même, le grand retour de Nobuo Uematsu dans les Final Fantasy, et ça, pour toi, c'est pas grand chose, mais pour beaucoup de personnes. C'est
pourquoi t'as dit pour moi, mais c'est
je,
pas
je sais pas. Je ne sais pas.
Tu dis n'importe quoi.
Mais à la fois, si tu n'avais pas parlé, personne n'aurait su à qui je parlais.
Tu
t'es trahi. Et là, je vais vous faire du name dropping à gogo. Et puis, si vous avez envie de réagir, vous levez la main, vous avez votre micro, parce que sinon, il y en a beaucoup. Il y a Bayonetta.
Ouais.
Très attendu.
Ouais, il est sorti en import. Il y a beaucoup de gens.
Exactement, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup apprécié son côté complètement explosif et sexy. Il y a GTA V.
Alors ça,
qui devrait arriver
ouais,
cette année.
Faut que je fasse le 4 d'abord.
Non, mais c'est vrai que
ça, j'en attends beaucoup. Hein.
Bah, ouais, le 4, avec du recul, il y a beaucoup de personnes, dont moi je ferai un peu partie, qui
disent
pas que c'est un mauvais jeu, mais que GTA 4, c'était plus l'aspect technique qui a été mis en avant.
Et narratif.
Et narratif, mais maintenant on aimerait qu'il soit aussi riche qu'un Zandon
Reas,
par exemple.
Exactement, bah, je suis exactement dans le même avis que toi, tu vois.
Mais est-ce que vous vous rappelez un petit peu dans justement GTA 4 épisode From Liberty Cities, en version boîte, dans le leaflet, page 13, mm-hmm. vous avez un petit dessin avec marqué, bon en gros vous comprenez que c'est la suite, GTA 5 arrive, etc., que ça arrivera en 2010, c'est sûr. Et puis il y a quelque chose qui ressemble quand même vraiment à de la campagne. Est-ce que vous pensez pas, genre, justement, à la San Andreas, que ça y est, GTA va s'ouvrir et avoir un monde beaucoup plus vaste que une simple ville, même si elle était déjà énorme, hein.
Oui, c'est...
Régal.
Oui.
Oui, la réponse est...
Très bien.
La réponse est oui. Oui, et il a bien dit oui et pas non, et oui ou oui ou non. Mais attends, mais oui, ça peut être vachement bien, à condition que ce ne soit pas comme la Toscane de Assassin's Creed 2, si je puis me permettre. Voilà.
Bah, il faudrait que ça pop un peu moins.
Voilà.
Même si chez Ubisoft... ça pop souvent.
Oh là là là.
Allez, un autre jeu, Batman Arkham Asylum 2.
C'est rapide, dites donc.
Oui, Guillaume.
Bah Batman, il est sorti il y a pas longtemps quand même, le 1, si enfin putain, il est
bah,
génial.
Octobre
si
dernier,
on, si on fait le très très bonne surprise de 2009.
Hein, ah oui, clairement un des jeux top de cette année. Bon, j'espère qu'ils y travaillent depuis un peu plus longtemps que depuis qu'ils l'annoncent, parce que sinon c'est un peu rapide quand même.
Mais a priori, bon, c'est le retour du Joker et puis l'asile d'Arkham serait vraiment dans Gotham City, quoi.
Ouais.
Donc pas mal
je
de
demande qu'être aussi bien emballé que le premier.
Exactement. Allez, un autre titre qu'on attend beaucoup ici, il s'agit de Red Dead Redemption. Traz, t'as pu y jouer, t'as pu le voir, et franchement, ça s'annonce chambé quand même. C'est
oui,
du Far West.
C'est GTA dans l'univers du Far West. Donc c'est ultra complet, c'est très bac à sable. Le mm-hmm. terme que t'aimes pas, mais voilà, c'est un peu vrai. Donc t'as quand même des missions.
C'est pas que j'aime
etc.
pas, c'est que je trouve qu'on comprend pas tout quand on le jette comme
faire
ça.
Un mais... petit peu tout quoi, mais bon, c'est quand même limité forcément. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est un univers qui moi me parle peut-être plus qu'un GTA parce que.
Moi aussi.
Je sais pas, c'est tellement plus agréable de voir les plaines comme ça au loin, les trains.
Les garçons dans des pantalons en cuir.
Voilà, exactement. Les chevaux ultra bien faits. Enfin,
oh grave.
C'est vraiment vraiment hallucinant visuellement déjà t'accroches tout de suite quoi.
Et toi qui l'as vu beaucoup plus, est-ce que c'est en termes de gigantisme de décor d'univers, c'est de la taille de la superficie d'un GTA?
Bah oui, c'est ce qu'il disait effectivement, la tête d'un GTA, donc peut-être plus que
donc des grandes chevauchées comme ça, ça va être classe.
Ouais, effectivement tu peux aller vraiment vraiment partout, mettre ton campement un peu où tu veux, enfin vraiment il y a plein de choses à faire. Il y a même des scènes un petit peu torrides.
Mm-hmm. Ah non mais ça tu peux en parler. Voilà. Ça il y a carrément des
parle
scènes
donc
de sexe,
des scènes torrides.
Et c'est quasiment, enfin c'est pas une première dans le jeu vidéo, mais là apparemment elles sont très explicites.
Oui effectivement, c'est très explicite.
Et voilà, ils ont vendu plein de jeux.
Et voilà,
d'avance.
Voilà. Bon, de toute façon, vous l'avez certainement lu dans mes impressions qui sont parues il y a quelques semaines. Donc.
Bah en fin d'année 2009, ouais.
Voilà, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que c'est impressionnant quoi, de voir cette scène-là en plein milieu de des shoots, etc.
Mais est-ce que c'est pas bon signe? Moi, alors c'est un aparté, mais entre The Saboteur, entre Red Dead Redemption, etc. On a enfin des nanas. Bon, il y a un peu de sexe, bon très bien. Et surtout qu'on dessine normaux. Non mais dans le
c'est
jeu vidéo,
une vraie
on a,
tendance
non, mais on a toujours
2010.
Eu des nanas qui étaient oui, des bimbos hallucinantes avec des seins qui rebondissaient dans tous les sens, comme des sales ados. Là, on a enfin un petit peu de.
On avait Mirror's Edge déjà, hein, qui était. Mais là, vraiment, pour... et c'était la volonté des développeurs de faire une femme qui ressemblait vraiment en fait à
une femme.
À une femme.
Voilà. Voilà. Ça a l'air con à dire, hein, mais pourtant c'est tellement vrai. Dans Heavy Rain, c'est pareil.
Et là, pour le coup, dans Red Dead, effectivement, c'est des femmes de l'époque. Hein. Donc, ne vous attendez pas à voir Lara Croft, genre moulée comme une bimbo.
Alors, mon petit Trazum, viens voir par ici.
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc,
très bien, Joe Lagoulu. Alors, on va passer à un autre titre qui a été annoncé aussi pour la toute première fois aux Video Games Awards. Prince of Persia, les sables oubliés. Qui lui devrait sortir en parallèle du film prévu pour le 28 mai 2010, la super production de Jerry Bruckheimer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'étais un peu. Je sais pas, pour l'instant j'attends pas plus que ça, franchement.
Moi ça me fait super peur et je trouve que le prince il a une pauvre gueule.
Ouais, moi aussi. J'ai l'impression voilà. que c'est un épisode
cheap, ouais. Ouais. Ça fait un peu cheap aussi.
Pour moi c'est le mauvais côté d'Ubisoft. Hein. Mm. J'ai parlé des très bons côtés d'Ubisoft et le mauvais côté c'est qu'on prend une licence et puis on la sue jusqu'à la moelle, on la tord, on les sort et là effectivement et... ça semble être un peu le cas. Même
et...
si bon,
on
attend
de et voir. Même on revient en arrière oui, puisque le précédent, alors il n'a pas énormément marché en termes de vente, mais il avait eu le. Il avait osé un nouveau parti pris graphique, des nouvelles idées, etc. Là, boum, on revient à la trilogie d'avant. Allez, on prend plus de risques.
C'est de refaire ce qui ont marché, hein, simplement. Ouais. On va pas chercher plus loin.
Ouais. Bon, ça, vous aurez compris que l'engouement n'est pas folie.
Non, mais surtout qu'en fait, généralement, chez Ubi, on t'annonce un titre, on l'oublie après pendant 1 ou 2 ans et on t'en reparle juste quand il va sortir. Là, on n'a même pas eu l'annonce, on sait qu'il sort très bientôt, donc c'est pas bon voilà, signe. Quoi. Ça veut dire qu'il a été fait un peu vite, juste pour être avec le film. Voilà, tu sens que ça a été fait vite, on a une date à tenir et il faut qu'il soit là. Donc généralement, c'est pas bon signe quand c'est comme ça.
Non, c'est ça.
Bon, très bien. Alors un titre qu'a priori on attend beaucoup plus, sauf Ragal, qui a l'air d'être déçu, enfin en tout cas qui est un peu
BioShock tempé. 2.
Voilà.
Ouais non mais BioShock 1 pour moi c'était vraiment une claque monumentale, vraiment à tous les niveaux.
Et tu penses que tu seras pas de nouveau
Voilà, je pense que ça. Enfin, disons que BioShock avec du recul, c'est pas un grand FPS. Hein, je veux dire.
C'est pas vraiment seulement un FPS.
Mais surtout, c'est pas un FPS. C'est-à-dire que tout est. Enfin, moi, ce qui m'avait plu, c'était l'intégration totale en fait du narratif et du gameplay. Et là, dans le 2, apparemment.
Bah, t'auras pas la claque, mais c'est la même chose, effectivement, ça ressemble beaucoup.
Ouais, mais je serais moins surpris, je serais moins.
Par l'univers.
Par l'univers, par l'histoire, par. J'avais vachement aimé. Enfin, s'ils refont la.
Bah, si, justement, niveau histoire, tu devras en apprendre beaucoup
non,
plus sur.
Oui, mais par exemple, l'espèce de mise en abîme qu'ils ont fait avec l'espèce de...
Ça tuait ça.
Voilà.
Mais on peut pas dire pour ceux qui l'ont pas fait, oui. Mais avec les histoires d'Andrew Ryan
voilà,
et de
on
héros.
Peut plus, on peut plus l'avoir une seconde fois, ce serait. Donc, bon.
Bah, peut-être que t'auras une bonne surprise, on sait jamais, ils ont peut-être eu des bonnes idées.
Mais j'espère revenir et dire ah, fantastique et tout, avec la baffe qui pend. Mais c'est vrai que je préfère maintenant aujourd'hui attendre moins les jeux et être agréablement surpris, comme sur Assassin's Creed 2 hein, l'année dernière, plutôt que d'attendre, surtout les suites de jeux que j'ai aimés et d'être déçu. Fallout 3 pour moi c'était le cas, quoi. J'étais extrêmement déçu par ce titre là.
Ouais, mais c'est parce que t'as joué aux deux premiers, toi, c'est pour ça.
Voilà.
Et vous l'avez compris, Ragal a fini tous les jeux de 2009. Je sais pas comment il fait, mais bon, voilà.
Bah, il travaille pas, voilà ce qu'il fait. C'est tout bête, il a que ça à faire.
Il prend du champagne dans sa baignoire dorée. peut-être que tu l'attends, Guillaume, toi, BioShock 2 ?
J'ai rien à rajouter.
Très bien.
J'ai pas
parfait.
Joué au premier non plus.
Pas mieux. Enfin, moi, j'attends beaucoup. Hein. J'espère effectivement reprendre la claque du premier, mais c'est vrai que ça sera compliqué. Dante's Inferno aussi, parmi les titres assez attendus. Mais bon, c'est un, entre guillemets, c'est du God of War 3, Julo.
C'est exactement ça. C'est du God of War. C'est très violent aussi.
Très, très violent.
Voilà, il y a de la nudité. Et puis surtout, une histoire. Il y a un univers quand même très. Comment dire, très travaillé.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et ça c'est peut-être ce que je retiens le plus sur ce jeu, voilà. Donc
c'est la direction artistique.
La direction artistique, le voilà.
Mais
le thème et tout,
c'est très beau sur les décors, mais c'est vrai que pour avoir pu jouer à la démo, c'est beaucoup moins riche visuellement sur les personnages. Enfin, il y a des choses beaucoup plus secs que dans un God of War 3, beaucoup plus dense graphiquement et technologiquement.
Un peu moins de détails. Ouais.
Ah, ils s'en foutent, ils vont vendre une version collector et ça suffira.
Bah
comme ça que ça marche maintenant.
On suivra en tout cas la descente aux enfers de ce Dante Inferno. Il y a Super Street Fighter 4 aussi qui arrive
l'arnaque
en 2010.
L'arnaque de l'année 2010.
Ah oui, alors ça tu l'aimes pas toi Traz.
Bah j'aime pas qu'on nous vende des trucs comme ça quelques mois après quoi. Enfin je comprends pas. C'est pas normal.
C'est exactement
donc,
comme les PES et les FIFA ceci dit. Hein.
Bah ouais. Te plains pas encore, on n'a pas le Guillaume. Super Prime Mega Delta Turbo HD. Voilà, c'est quand même
mais
la tradition.
Ça viendra.
Sur les streets ça va venir. On sait que le Prime, les Delta, etc. vont arriver.
C'est vrai qu'ils l'ont annoncé un peu tôt après le succès du premier, mais le problème c'est que même si j'aurais tendance à être d'accord avec Trace, je sais que je replongerai pareil, donc voilà, je serais le premier à me faire avoir.
Alors est-ce que vous allez vous faire aspirer aussi par le sable de Dubaï avec Spec Ops The Line qui a été annoncé dernièrement et qui est quand même un petit truc, hein, Raon.
Bah, alors oui, c'est 2K qui se lance dans la grande bataille des shooters contemporains et si on se fie en tous les cas à ce qui a été projeté pendant les Video Games Awards fin de l'année dernière, ça a l'air d'être techniquement à niveau et de proposer en tous les cas quelque chose qu'à la pêche, quoi.
Et puis très original parce que justement c'est la première fois qu'on joue avec du sable, donc des sables mouvants, ouais. Des sables qui se vident, des sables qui font bouger finalement les décor.
Ouais. Enfin, c'est. Ça ouais.
Je suis super convaincu, mec.
Ça me fait un petit peu penser à ce jeu de LucasArts qui a fait un énorme four et qui avait du terraforming, un TPS aussi.
Ah oui.
Qui s'appelait Fracture.
Ouais. Ça a marqué tout ça.
Voilà, mais il y aura peut-être effectivement de ça et espérons mieux foutu que dans Fracture, ouais.
Eh ben, est-ce que ce sera mieux foutu? On a parlé tout à l'heure de Mafia 2 qui est très attendu par Ragal.
Ah, moi aussi, je l'attends à mort.
Bah, par nos deux amis sur le canapé blanc souillé par Pia. Il y a Homefront aussi.
Oui. Alors Homefront, c'est pas garanti qu'ils sortent en 2010, mais en tous les cas, c'est ce qu'ils visaient quand ils nous l'ont montré à l'E3.
À l'E3, et c'était très prometteur.
Ouais, c'était encore une fois un shooter, mais là plus post-apocalyptique. De toute façon, c'est soit c'est contemporain, soit c'est post-apocalyptique. Mmh. Hein, c'est l'un ou l'autre. Mais
à la fois un shooter Heroic Fantasy.
Non mais, eh bah écoute, il y en a un qui est en préparation.
Non mais ceci dit, c'est pas trop mal qu'on ait plus trop. Enfin, à une époque, pas si lointaine, on avait que des shooters à la Seconde Guerre mondiale et ça commençait un peu à saouler, quoi. Donc, contemporain post-apocalyptique, moi je dis pas non, quoi.
Donc, dans ce registre-là, il y aura Medal of Honor aussi, une sorte de reboot de la série. Electronic Arts parle de l'odeur des dollars à pâté. Eh bien, ressort du guet et nous ressort sa série en faisant, comme tu le disais très justement, Guillaume, un pomme C, pomme V de Modern Warfare. Ce qui est bien pour ceux qui aiment les Modern Warfare, c'est que désormais vous n'en aurez pas un tous les deux ans, mais un tous les six mois. Voilà, parce que ça a l'air très beau, mais ça a l'air d'être la même chose. On l'attendra forcément pour avoir un avis définitif, enfin bon, c'est pareil. Il y a Rage aussi. Ah, ça c'est intéressant, Rage. C'est quand même le nouveau projet de John Carmack. Technologiquement très attendu.
C'est pas le nouveau projet de John Carmack, c'est le premier jeu qui sera sur le nouveau moteur de John Carmack, pour être
oui,
plus précis. Donc, avec l'ID Tech 5.
Enfin, c'est son jeu.
Oui, mais enfin, c'est pas lui qui fait le gameplay. Tu
bah
vois.
Si, un peu.
Bah non, pas tant que ça, non.
Vous d'accord.
Ah, si, c'est sûr.
D'accord, ok.
Ah non, mais j'en suis à peu près sûr, à 99%. J'ai lu une interview de 7 pages de lui qui explique tout le gameplay.
Oui, non, mais d'accord, mais il est pas game designer là-dessus, quoi. Enfin, il intervient, il le produit, il est dans le moteur.
Il y aura marqué truc, mais... A Production by John Carmack.
Sans doute, mais en tous voilà. Les cas, c'est encore un shooter post-apocalyptique, décidément. Mais plus avec une optique un peu plus univers ouvert cette fois, bac à sable, donc pour reprendre le fameux terme. Et du véhicule aussi. Je l'ai vu aussi à l'E3, c'était pas si impressionnant que ça sur la version 3660 qu'ils ont montré à l'époque, en tous les cas graphiquement, par rapport à ce que tout promet le moteur. Mais je pense que ID Software, notamment maintenant qu'ils ont été rachetés par Bethesda, ils sont peut-être aussi un peu plus tranquilles financièrement de ce point de vue, auront le temps de le raffiner.
Donc. Et à la fois, ils ont annoncé que la version Xbox 360 serait la pire des trois, hein, parce qu'elle sortira sur PC, là où il y aura les giga textures, les trucs de ouf, parce que c'est ça le principe de son nouveau moteur, quoi, c'est des textures gigantesques.
C'est une énorme texture pour toute la
boîte. Et sur PS3, bah, il sortira sur un seul Blu-ray, alors que sur Xbox, il risque de sortir sur deux DVD, ils ont dû donc renier la qualité des textures, blablabla, ils n'ont pas l'air de très très contents pour l'instant.
Ceci dit, si c'est. Enfin, ça, peut-être que je me trompe, mais s'ils ont montré la version 3.6 à l'E3, c'est que c'était quand même une version lead. Hein. Donc, bon, c'est un peu bizarre, mais bref.
À suivre.
À suivre, surtout pour la version PC, effectivement.
À suivre. Parmi pour les fans de Metal Gear, il y aura a priori en 2010 deux Metal Gear. Il y aura le Metal Gear sur PSP, Metal Gear Peace Walker, très attendu. Hein. Puis vous avez pu voir l'interview de Kojima en exclusivité hein, française à la fin de l'année 2009. Ça nous a bien fait plaisir, ma foi. Et puis ça a l'air intéressant, riche, très nouveau. Et il y aura aussi, bien sûr, Metal Gear Rising, qui sortira là, cette fois-ci, sur les consoles HD, Xbox 360 et PlayStation 3. Mais vous l'avez compris aussi, si vous avez été attentif à l'interview de Kojima, c'est vraiment pas lui qui s'en occupe, c'est vraiment les nouvelles équipes de Kojima Productions. Donc, à voir ce que ça va être. Moi, je sais pas pourquoi je sens un grand jeu d'action, une espèce de beat'em all avec Raiden. Je sais pas pourquoi, je sens un truc comme ça.
Pourquoi pas, ouais.
Moins centré sur l'histoire.
Un jeu
où on pourra
jouer.
Oh là là.
Il est content de sa blague.
Là, il est content de sa blague.
Et ben on verra, hein, on verra ça.
Je vais te dire oui et non, mais bon.
Oh là là.
Et puis allez, on va conclure avec Star Wars The Old Republic.
Ah, bah, très attendu aussi. Peut-être le seul MMO qui arrivera à toucher WoW. Ouais. Peut-être une licence que tout le monde connaît.
C'est vrai, c'est vrai qu'on dit ça à chaque fois. Hein, à chaque nouveau jeu, le Warhammer, peut-être le seul.
Ah, moi j'ai jamais dit Warhammer qu'il allait tuer WoW.
Le seul, ouais, mais. les observateurs
avertis
disent ça. Mais c'est vrai que le premier Star Wars en MMO était vraiment une catastrophe. Et on espère...
Galaxy, ouais.
Ouais, Galaxy. Et là, bah, effectivement, avec les gens qui sont aux commandes, on espère beaucoup.
Mais c'est vraiment un clone de haut. À jouer en tous les cas, c'est un clone de WoW, c'est vraiment la même dynamique, très facile d'accès, très actif, tu vois, avec où tu veux faire sauter ton personnage et tout, avec en plus beaucoup d'instanciage, je sais pas comment ça se dit, ou enfin bref, de trucs, avec un soi-disant quatrième pilier de design qui est la narration avec des histoires plus personnelles et le doublage de tous les personnages du jeu qui mine de rien, apporte énormément pour l'immersion. Et c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce que ça donne.
Eh ben écoutez, messieurs, j'ai l'impression qu'on va vivre une année passionnante, justement.
Il y a tellement de
à vous de le dire jeux. Maintenant, de vous taire à jamais. Est-ce qu'il y a un titre qu'on aurait oublié, est-ce qui vous toucherait
mais
peut-être
plein.
Particulièrement ? Ah non, mais bien sûr, mais qui vous toucherait là, dont vous auriez envie de chanter le nom et de chanter les louanges ? Oui, non,
ouais,
non, oui,
si,
non,
si.
Non, oui.
Moi, j'ai envie de pas. Enfin, je pense à Brink, qui devrait être un shooter vachement intéressant sur le parce qu'il est vachement dynamique au niveau du mouvement, puisqu'il reprend un petit peu du Mirror's Edge.
Ouais. Et Mag sur PS3, mais bon, ça on exclut, on n'en avait pas parlé. Mais...
Ouais. C'est vrai.
Fez en jeu indépendant, effectivement.
Que j'ai gravement envie de voir. Ouais.
Qui se place sur un plan 2D mais qui tourne en 3D.
Ouais,
qui ressemble un petit peu à Paper Mario mais en plus compliqué.
Et qui sortira sur Xbox Live Arcade.
A priori, oui, c'est développé par Polytron, c'est ça. c'est trois mecs aussi.
Polytron.
Il voilà, y a Darksiders, moi j'ai envie de jouer. Il y a
des millions de jeux encore qu'on n'a pas encore, dont on ne connaît pas le nom, qui vont arriver là.
Et puis il y a d'autres productions dont on va entendre parler plus aussi, peut-être The Agent, le fameux l'exclu PS3 aussi chez Rockstar, qui peut être intéressant. Il y a trop.
Mais ils ont le temps chez Rockstar, ils sortent des très très bons jeux
assez
au moins une fois par an, donc.
Il y a bien évidemment encore énormément de titres même qu'on ne connaît pas, et c'est ça qui fait le sel du jeu vidéo.
Exactement.
C'est d'avoir des surprises, d'être un peu étonné. Si on arrivait à l'E3, au TGS ou à la Gamescom et qu'on savait tout, franchement, à quoi ça servirait d'y aller?
Exactement.
Et ben je vous le demande, ma bonne dame. Allez, on va vous souhaiter une fois de plus une super belle année 2010, une année faite de plein de beaux jeux et plein de bons jeux. Voilà, nous, vous l'avez compris, les podcasts sont de retour sur gameblog.fr, donc on vous redonne rendez-vous dès mercredi prochain, et là vous pouvez sur les forums eh bien deviser sur ce que vous attendez le plus en 2010, les jeux et l'état du marché. Mesdames et messieurs, on trinque une dernière fois.
Bonne année,
bonne année à tous, ciao.